Nous sommes mercredi 5 mars 2025 et vous écoutez le Dojo Bar.
Ah!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy.
Salut.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Qui décapsule, hein, c'est normal. Et bonsoir Renard, qui est peut-être pas là, qui est peut-être là, je ne sais pas.
Ah. Il est encore aux toilettes, je crois.
Je pense qu'il est encore aux toilettes. Ça fera plaisir à Méduse.
Voilà. Bonsoir, je suis en décalé.
Oh mon dieu, c'est un différé, un léger différé de 3 minutes.
En direct du studio, on enregistre.
C'est ça. Ce soir, dans ce dojo bar exceptionnel, contrairement aux autres dojo bars qui sont plutôt des dojo bars ordinaires, hein, je dirais, nous allons parler de la série Civilization, puisqu'il y a un petit événement, il y a un petit jeu qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, qui s'appelle Civilization 7, Civ 7 pour les intimes, et qui a la petite particularité un peu rigolote d'être le premier à être adapté pour console et qui est donc sorti sur PC et console en même temps, ce qui n'était pas le cas du précédent Civilization 6 où la version console que nous avons eue est en fait un portage de la version mobile qui elle-même était un portage de la version PC, enfin bref, ça a été un peu laborieux, là ça a vraiment été pensé pour ça, donc on s'est dit, allez hop, Civilization, on parle de la série complète, il n'y a pas de raison. Mais on va commencer d'abord par notre traditionnel tour de table de l'actualité et je vais passer la main pour commencer à Monsieur Zergy qui va dire du bien d'Electronic Arts. Donc enregistré, hein, c'est maintenant.
Oui, il va pleuvoir de la merde.
Après les États-Unis qui s'allient avec les Russes, Zergy fait du bien dire.
Non mais c'est ça, les chiens qui couchent avec les chats, l'hystérie collective.
Mario et Sonic, tout ça, tout ça.
Voilà.
Oui. Donc, il y a quelques jours, on a eu une surprise, puisque Electronic Arts a passé en GPL V3, enfin tout ça, à dire en logiciel libre, plusieurs jeux de la série Alerte Rouge, enfin plusieurs jeux de la série Command & Conquer, dont les premiers Alerte Rouge et le premier Command & Conquer, CNC Generals, CNC Renegade, qui est un FPS qui était sorti au début des années 2000, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal.
Il n'y avait pas Tiberian Sun aussi
Non, justement, il n'y a pas Tiberian Sun et il n'y a pas Alerte Rouge 2.
Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment les plus anciens jeux de la série.
Ouais, un peu, si on veut. Parce que Renegade et Generals, c'est 2001 et 2003.
Ah, quand même.
Alors après, pour Tiberian Sun et Alerte Rouge 2, il y a des rumeurs. Alors, il y a deux rumeurs contradictoires. Il y en a qui disent qu'il y aurait un remake qui sera en cours et d'autres qui disent qu'ils ont perdu le code source.
Les deux sont possibles en vrai. Hein. Je serais pas choqué. Qu'ils s'est perdu le code source ou que effectivement il y a un remake en cours parce qu'ils avaient ressorti les.
En fait, les premiers ont été ressortis en 2000 en remake.
C'est ça. Et puis c'est ressorti récemment et en fait le code source a été rendu public récemment, mais il n'était pas sous licence libre. C'est-à-dire qu'on pouvait aller regarder comment c'était foutu, mais on n'avait pas le droit en fait d'aller bidouiller dedans, ce qui est quand même un petit peu dommage. Là maintenant, on peut aller bidouiller dedans. C'est-à-dire qu'on faut s'attendre effectivement à des portages sur des consoles improbables, des PC,
oui,
des
oui.
machines improbables.
Alors après, il y en a qui en ont profité immédiatement, puisque les gens du projet Open Red Alert ont immédiatement fait des modifs suite à ce passage en open source. Donc si vous voulez jouer à du Red Alert ou à du Tiberium, enfin, vraiment des... C'est fortement inspiré des tout premiers, vous installez au Open Red Alert.
Ok. Bon bah c'est une très bonne nouvelle ça. On commence bien. Je suis assez content. Je vais passer la main à Monsieur Antix qui voulait nous parler d'un livre. C'est pas tous les jours qu'on parle de livres ici.
Ouais.
Un livre qui fait plaisir, on va dire ça comme ça.
Un livre qui fait très plaisir et puis qui tombe plutôt bien puisque le portage / définitive édition de Xenoblade X qui sort à la fin du mois. Et je pense que c'était pas prévu, hein, mais le timing est plutôt bon pour faire l'édition. Donc il y a une édition, enfin un éditeur français qui est spécialisé dans les ouvrages jeux vidéo et pop culture. Notamment une collection très complète sur tous les Final Fantasy chez eux. Et dans cette collection, ils ont notamment sorti le mois dernier un livre consacré à Xenoblade 1, 2, 3 plus X. Et qui retrace un petit peu la création des différents jeux. Les enjeux, un petit peu l'histoire, et aussi un petit peu la philosophie derrière le gameplay différents, et la direction artistique, par exemple. C'est assez chouette. Il y a tout un paragraphe consacré à la musique aussi. Quand même un des points les plus importants de la série et qui vraiment a le bon goût, contrairement au Game Awards, de rappeler que la musique de Xenoblade 3 est sûrement une des plus belles musiques de jeux vidéo jamais pensées. Un peu un truc de malade. On rappelle qu'ils ont créé des flûtes pour l'occasion. Si c'est une série que vous aimez bien, je vous recommande.
Eh bien, c'est une bonne recommandation. C'est aux éditions, c'est The Third Edition, c'est ça ?
Third Edition, ça se trouve sur leur site directement ou en librairie.
Sûrement, oui, oui. Genre. Je mets bien à la Fnac.
Voilà.
Exactement.
On dérolait maintenant.
N'hésitez pas.
Vous pouvez acheter directement sur leur site un Third Edition aussi.
Oui.
Et c'est à combien ce petit truc-là ?
C'est 25 ou entre 25 et 30 de mémoire.
D'accord. Ça. En plus, c'est pas complètement prohibitif, quoi.
Bah, il y a 300-400 pages, hein, donc ça prend un petit peu de temps. Et si vous êtes curieux, il y a un autre ouvrage sur Xenogears et Xenosaga chez eux aussi, qui n'est pas fait par le même auteur, mais qui est aussi tout à fait très intéressant. Alors moi, qui ai joué à Xenogears, c'était vraiment passionnant. Vous êtes un peu curieux de c'était quoi les jeux de Takahashi avant Xenoblade, ça vaut le coup aussi.
Ok, on a une micro-news. Alors, voilà, moi, je n'ai pas eu droit au spoil, hein, on m'a dit, les fans de Pokémon sont fous, voilà, c'est juste ça l'actu, démerde-toi avec
en
ça.
En quoi ça change voilà. D'habitude
c'est ça, j'ai envie de demander à Mecton, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé?
Vraiment, vraiment fou. Année 2020, un Américain mange des Cheetos, tombe sur un Cheetos épicé qui ressemble vaguement à Dracaufeu. Petit même internet, il en a fait une espèce de carte particulière, si tu veux, il l'a protégé, vraiment mis sous scellé. Il l'appelait Cheetosard, parce qu'il s'appelle Charizard, Dracaufeu en VO. Donc imagine une chips qui ressemble vaguement à un dragon dans une mini vitrine en verre, tu la mets en vente et elle part à 80 000 euros.
D'accord.
les mecs ont acheté un même internet, quoi.
En gros, ils ont acheté un NFT physique.
Alors moi, là où je suis rassuré, c'est que t'as pas parlé de la peluche grandeur nature de Gardevoir, et ça me fait plaisir.
Je ne veux pas savoir.
Voilà.
Je ne veux pas savoir.
Vous ne voulez pas savoir.
Non, je suis pas confort. Petite news, ça fait quand même longtemps. La Switch a 8 ans. Voilà.
Déjà ?
Bah oui, 8 ans, c'était en 2017. Alors, à 2-3 jours près, hein, je crois que c'était genre le 8 mars 2017, une connerie comme
ça. Pas le 6, le 7 ?
C'est possible. On n'est pas très très loin de son 8e anniversaire.
C'est la présentation au mois de mars. Hein,
C'est la sortie.
La présentation, c'était au mois de janvier, et effectivement, sortie début mars.
Voilà. Ok.
Le timing était très serré, puisque la première vidéo de présentation de la Switch était genre début décembre, si je dis pas de bêtises.
Ouais, novembre-décembre 2016.
Un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, je crois que c'était fin octobre même.
Impossible, hein. Mais en tout cas, c'était voilà, fin de l'année 2016, du coup. Et donc, janvier 2017, on a eu le fameux événement où il fallait amener sa balance et puis son pied à coulisses pour tout.
Sa balance board.
Voilà. Et ensuite, on a eu donc au mois de mars, la sortie officielle. Et c'est quand même, je me permets de rappeler, un lancement assez ouf, hein, en réalité. Alors, il n'y avait pas beaucoup de jeux sur le lancement lui-même, puisqu'on avait à part Bomberman et Breath of the Wild quand même, bon, excusez du peu. Alors, il est sorti sur Wii U, les mauvaises langues diront que...
T'oublies un jeu absolument extraordinaire, qu'on a testé en live le jour de la sortie de la console.
Ah, putain.
C'est aussi oublié que, lors des premiers modèles dans le premier software, il y avait aussi le jeu de golf de la NES qui était caché. Et qu'on devait débloquer en faisant un geste à la con.
Oui, il y avait plein de trucs comme ça, mais je me rappelle, en fait, c'est surtout, on a eu je pense quand même qu'on a eu un lancement comme on en a rarement eu. Sur la première année de la Switch, c'était quand même assez ouf. T'avais Breath of the Wild, t'avais Splatoon 2, t'avais Super Mario Odyssey. Ça fait quand même des gros poids lourds, c'est-à-dire que Nintendo a sorti à dégainer les très très gros poids lourds sur la première année, et assez rapidement, hein, parce que Splatoon 2, je crois que c'était au mois de juillet, et si je dis pas de bêtises, Mario Odyssey a dû arriver au mois d'avril ou mai, un truc comme ça.
Odyssey, c'était octobre.
Octobre.
Y a, en fait, entre la sortie de la console et la fin de l'année, chaque mois, t'avais un jeu Nintendo. Alors, pas forcément que des gros jeux, puisqu'on a eu des remakes aussi, avec Mario Kart 8 Deluxe. Et peut-être un nom de quelconque, je ne sais plus.
Oui, Tropical Freeze.
Tropical Freeze, oui, qui effectivement.
Oui, on faisait saigner la Wii U, hein. On commençait bien.
Ouais, mais peut-être qu'il y a des trucs, c'est en 2018. Mais globalement, ouais, en mars, t'avais Zelda. En avril, t'avais Mario Kart. Durant l'été, t'avais Splatoon. Et à la rentrée, t'enchaînais Fire Emblem Warriors, Super Mario Odyssey. Et du coup, Xenoblade 2 au mois de décembre.
Voilà, donc c'était quand même un truc assez ouf.
Il y avait même eu Mario les lapins crétins dès la première année.
Tout à fait.
Très bon jeu.
Tout à fait. Et je doute qu'on revive un lancement aussi réussi. Parce qu'on rappelle que le lancement de la PS5 n'était pas ouf. Le lancement de la Xbox Series X, je ne sais même pas si c'est arrivé.
Elle est sortie ?
Putain, je vois.
La PS5, c'était en 2023, c'est ça ?
Ouais, non, c'est ça. C'est, ouais. Ça fait 5 ans que vous faites la blague.
Supposément. Hein. Supposément, c'était en 2023.
Bien sûr que Xbox est sorti, parce que maintenant il y a des jeux Xbox sur Switch.
Ah putain, ça y est. Ah là là. C'était bien parti comme émission, on avait commencé par dire du bien d'Electronic Arts, donner un livre, et puis là ça y est, ça part en couille.
Attends, t'as cru qu'on allait faire une émission sérieuse de conneries?
J'espère bien que non. Alors là, le jour où vous faites une émission sérieuse, moi je me casse. Hein. Ça va être très clair.
Un dojo bar sans conneries, c'est comme une console Nintendo sans Mario Kart. Hein.
C'est ça, on y arrive. Sans Mario Kart 8.
Ah, c'est plus courant quand même.
C'est important. Bref, voilà. Donc si le timing est respecté par Nintendo, c'est présentation au mois d'avril, sortie au mois de juin. Bon, j'en doute parce que c'est pas la meilleure période de l'année.
Bah en fait, je pense que pour les fans, ça leur permet d'avoir la console en avance, ils sont sûrs de l'acheter quoi qu'il arrive. Et du coup, t'as du stock pour Noël pour le plus grand public.
Effectivement, c'est peut-être pas idiot. Puis en plus, si tu l'as au mois de juin, tu l'as pour partir en vacances et pour une console portable.
Alors après, pour jouer avec quel jeu, je ne sais pas. Mais...
Bah, Mario Kart 9.
Ça vaut pas encore.
Ah, mon backlog me regarde et me dit merci.
Ah bah, si c'est rétro-compatible, à la limite...
Normalement, c'est rétro-compatible quasi intégralement.
C'est ça.
Oui, il y aura juste les jeux qui demandent la caméra infrarouge qui ne seront pas compatibles puisqu'il n'y en a plus. Donc on peut dire adieu à Nintendo Labo.
De Labo, je crois que même le problème, c'était la taille de la machine.
La taille est un problème aussi. Oui, la taille des Joy-Con et la taille de l'écran sont un problème.
Je me demande par contre si Nintendo Garage, qui est donc le petit moteur de jeu qui est donné pour qu'on puisse bidouiller, sera compatible, parce qu'il avait aussi des fonctions avec la caméra infrarouge.
Alors ils avaient dit qu'il y a certains jeux qui seraient pas compatibles et d'autres une compatibilité avec des restrictions. Ça fait plus partie de ces logiciels-là.
Parce que c'est vrai qu'il y a une petite partie avec la caméra infrarouge, mais ça reste très 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 limité. Hein. Donc je serais pas choqué que cette partie-là ne fonctionne plus, par exemple.
Bah, parce que c'est quand même un petit truc cool pour expérimenter et apprendre sans télécharger, par exemple, Godot ou Unity sur son ordinateur.
Tout à fait. Ah non, mais ça après, l'atelier du jeu vidéo, puisque c'est son titre en français, fonctionne extrêmement bien pour ça. Tu peux même brancher une souris, donc tu peux être manette-souris, donc faire à la souris ton bordel, et puis à la manette tester ton truc, c'est vraiment bien fait.
Alors, souris avec la Switch, USB. C'était le 3 mars. Oui.
Alors le 3 mars, donc en fait on a 2 jours de retard. Voilà, bravo. Bref, on va finir avec une petite nouvelle, pareil, vous êtes vieux, Mecton. Quand est-ce qu'elle est sortie déjà la PS2 ?
Putain, bah dans les années 2000 du coup.
99
ans. Hein.
Je crois que c'était en 2002.
Ans. Non, c'est en 2000.
Pinaise.
Et voilà, 25 ça ne rajeunit pas.
Ouais, ouais. Donc, oui, bah petite console qui a marqué son époque, mine de rien. Si je dis pas de conneries, encore aujourd'hui, c'est la plus vendue. Voilà, ouais. Et qui avait 2-3 particularités. Alors, à part son une émeute au Virgin.
Ouais, c'est ça, le plus grand Battle Royale de France, j'allais dire.
Donc ouais, Sonic commençait à jouer un petit peu sur la hype, les ruptures de stock et compagnie. Un design particulier, il me semble que c'était la première console qu'on pouvait foutre à la verticale, si on est dans des détails à la con.
Alors, techniquement, la N64 aussi, hein, je voudrais pas... Voilà.
Ouais, ta NES aussi, tu peux la mettre à la verticale.
Voilà, si tu vois, c'est techniquement... Ouais,
non,
et on connaît tous des PlayStation qui ont fini à l'envers parce qu'elles chauffaient trop. Hein.
Donc, parce que la lentille avait fondu. Ouais, oui, voilà. Putain. La particularité technique de la console, alors je peux dire de grosses conneries, mais c'était une archi. Ça, c'est pas une connerie, une archi très particulière qui encourageait. Parce que je vais essayer de vulgariser le truc au maximum pour pas saouler les gens qui trempent pas trop dans le dev.
qui encourageait à paralléliser les traitements graphiques avec le fameux Emotion Engine, qui était le cœur principal de l'architecture de la console. Et j'en profite pour placer une anecdote que j'oublierai jamais d'un dev de Ubisoft qui était venu nous faire une petite conférence à la fac. Et parlait de l'Emotion Engine, du coup, en disant que l'émotion, ils l'avaient eu quand ils avaient réussi à afficher un triangle sur ce machin.
Ouais. Si vous voulez encore un petit peu d'anecdotes croustillantes sur la PS2, il y a un petit article qui date de l'an dernier sur Renderware, qui en fait avait été... Alors justement, suite à ça, alors la PS2, c'est très 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 compliqué. Alors Sony a aussi réussi à démontrer que c'est pas parce qu'on a la console la moins puissante, la plus merdique, la plus compliquée à développer, qu'on peut pas la vendre. Ce qui est quand même assez paradoxal.
Quand c'était aussi un lecteur DVD pas cher,
ça a aidé. Hein.
C'est ce que j'allais dire, hein, le gros succès de la console, c'est aussi le lecteur DVD qui était moins cher qu'un lecteur DVD dédié.
Alors, avec en plus un accessoire télécommande.
Tout à fait. Alors ça a été le cas pendant genre 6 mois, puis après c'était plus le cas, mais c'est un détail de l'histoire. voilà, il y a un petit article sur Renderware. À l'époque, Renderware était considéré comme le DirectX de la PS2, c'est-à-dire que si tu voulais arriver à rapidement te mettre en selle et pouvoir... si tu voulais rapidement pouvoir démarrer ton projet et avoir quelque chose qui tourne très très vite, Renderware, c'était cher, mais en fait c'était assez rentable. Il y a Renard qui a une news aussi.
Je termine pour compléter, le Renderware est sorti un petit peu après, le mec d'Ubi nous expliquait que Sony se sentait plus pété, il disait c'est bon, on est les maîtres du monde suite au succès de la PlayStation, tous les kits de dev étaient livrés avec zéro librairie, c'était à toi de faire tes librairies si t'en avais besoin, et la doc était en japonais.
Ouais, je suis même pas choqué.
La doc en japonaise, vraiment?
Ouais. Honnêtement, je suis pas choqué. Bon, monsieur Renard.
Oui.
Tu avais une nouvelle.
Oui, une très bonne. Le 13 février dernier, il y a eu une grève générale du jeu vidéo en France et dans deux autres pays. Et c'était un gros succès. C'était dans plusieurs villes. Il y avait Rennes, Nantes, Angoulême, Bordeaux, Lille, Paris, Annecy, Lyon. Et ils avaient aussi une caisse de grève sur Itch.io qui a dépassé les $50 000 de récolté sur un objectif premier de seulement 5 000. Et il y a eu aussi un accord trouvé avec Dontnod Interactive. C'était un plutôt gros succès.
C'est une très bonne nouvelle. On salue nos amis du STJV, le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. On avait interviewé quelqu'un du STJV il y a quelques années maintenant.
C'est au moment de sa formation, hein.
Tout à fait. Quand le truc démarrait à peine, on vous invite à aller réécouter ça. C'était vraiment très 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 intéressant de savoir ce qui se passait. Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour le petit STJV qui finalement se fait une petite place parmi les travailleurs du jeu vidéo, et c'est tant mieux.
Enfin, c'est tant mieux parce qu'en plus, vu les périodes en ce moment, à base de... plan de préservation de l'emploi... plan de sauvegarde de l'emploi, voilà. Qui a eu ces notes par exemple, ou les choix de refaire revenir tout le monde au bureau et d'arrêter le télétravail chez Ubisoft. C'est pas mal aussi d'avoir des gens qui tiennent à travers du jeu vidéo, qui généralement sont déjà assez précaires comme ça, et en plus dans un secteur qui est le secteur de la tech, où mine de rien, le syndicalisme ça n'existe pas vraiment.
Tout à fait.
Maintenant,
secteur compliqué là-dessus.
Maintenant au moins, il y a une certaine représentation, ça a été un plutôt bon succès, et ça a fait parler. Je crois d'ailleurs que c'était la première grève du jeu vidéo.
Alors, il y en a
probablement eu aux US, je crois.
Il y en a probablement eu d'autres, mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est que là, ça a plutôt bien marché. C'était quoi ? C'était un travailleur sur 5 qui était en grève, donc 20% du secteur en grève. C'est quand même pas trop mal pour un secteur, encore une fois, relativement peu syndiqué, relativement peu représenté, et dans la tech où c'est assez mal vu de manière générale.
C'est plutôt toxique, hein. C'est juste pour ceux qui nous écoutent. C'est un monde où globalement on te dit de quoi tu te plains, si t'aimes pas, casse-toi, il y en a 50 qui veulent ta place.
Oui. Le monde de la tech de manière générale aussi, hein, d'ailleurs. Bref. Écoutez, on va enchaîner. On va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Civilization 7. Alors en fait, un petit morceau, c'est le morceau d'intro et vous allez voir. C'est petite merveille. Ouais, c'est le epic stuff de ouf. Hein. Normalement, une fois que tu l'as écouté, toi aussi t'as envie d'envahir la Pologne, quoi. C'est à peu près le...
Dérapage !
Voilà, c'est composé par un monsieur qui s'appelle Christopher Tin, c'est donc le thème principal de Civilization 7, qui s'appelle Live Gloriously, vie glorieusement. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 5 minutes, c'est un petit peu long. À tout de suite. Et nous allons de retour. Et donc, Civilization. Et on commence par la présentation d'Antix, qui n'était pas prévu, mais qu'en fait, c'est quand même drôlement bien quand il y en a une.
Ouais, et puis en plus, je l'ai écrite rapidement hier, hein, donc...
Donc on est très 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 heureux d'entendre ça. Allons-y. Civilization, donc.
Je me nomme Harald Hardrad. Je suis le dirigeant des Vikings, fier peuple de guerriers et de marins. Cela fait maintenant plusieurs siècles que mon peuple s'est installé dans le nord de l'île d'Albion. Les seuls maîtres de cette région... Depuis que nous avons assimilé les Japonais à notre royaume, grâce à l'influence de notre culture et de notre religion. Toutefois, je sens les jours sombres arriver. Mes espions m'indiquent qu'au sud, une coalition entre Bismarck et Napoléon ourdit de sombres complots et la guerre ne serait que trop tardée. De son côté, Nabucodonosor II, souverain de l'Empire de Babylone, a mis en place les Nations Unies dans son fief des îles irlandaises afin de tenter de calmer les tensions entre nous. Mais hélas, je sens qu'il est déjà trop tard. 1965, la guerre est déclarée, Bismarck a tiré le premier en lançant un missile nucléaire sur la ville frontalière d'Oslo, et cherche désormais à s'enfoncer dans mes terres pour atteindre Copenhague, notre capitale ancestrale fondée il y a bientôt 2000 ans. Mais nous tiendrons bon, comme nous l'avons toujours fait. Nous sommes en guerre. 1980, mes troupes marchent enfin sur Berlin. Bismarck se rend, ne laissant plus que les ruines au sein de la nation allemande, et isolant Napoléon, son unique allié. Malgré la victoire, ma nation est exsangue, le tribut a été lourd et la population est de plus en plus mécontente. Je choisis donc un accord de paix comme le suggèrent les autres nations de l'ONU, dirigées par Nabucodonosor II. Celui-ci a bien profité de sa neutralité, sa nation en paix a pu se développer considérablement, et il se murmure même qu'il prépare un premier vol vers les étoiles dans quelques années. Ce que je vous raconte, ce n'est pas un cours d'histoire que vous auriez loupé parce que vous dormiez en classe lorsque vous étiez en CE2, mais le récit d'une partie de Civilization, série de grandes stratégies cultes du PC. Celle-ci offre aux joueurs le loisir de jouer avec l'histoire avec un grand H, ce qui reste un terrain de jeu extrêmement amusant, mais aussi extrêmement riche, et il me sera bien difficile de résumer tout ça dans ce petit pitch de quelques minutes. Mais, ça tombe bien, on est là pour faire une émission de 2 heures, donc autant y aller. Accompagnez-nous donc dans la découverte de cette série mythique, et succombez-vous aussi aux 12 appels du One More Turn.
Ah, le One More Turn, il va falloir qu'on en parle.
Parfait, bravo.
C'est parfait, mais c'est effectivement, bravo. Ça résume bien.
Magnifique.
C'est à peu de choses près, c'est une partie que j'ai vraiment jouée. Parce qu'à un moment, je me suis retrouvé à me battre en Angleterre contre Bismarck et Napoléon avec les Vikings. Et Nabucodonosor a gagné la partie parce qu'il était dirigeant de l'ONU.
Non mais voilà, c'est en fait Civilization. Quelqu'un m'a dit il y a quelques années, PUBG, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Battle Royale. PUBG, c'est une usine à histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ta partie commence et tu sais jamais comment elle va se terminer et il t'arrive toujours des anecdotes de ouf. Civilization, c'est exactement ça, quoi. Il t'arrive toujours des trucs complètement ouf, anachroniques au possible, débiles parfois.
Ah bah, déjà, rien que le prémisse, en fait, enfin... Civilization, dès le début, ça reste un jeu où tu joues des nations qui existent vraiment avec des dirigeants qui existent vraiment. Enfin, qui ont vraiment existé, plutôt. Mais, oui. Comme tu peux pas mettre tout le monde sur une carte... Et qu'en plus, tu peux même choisir de jouer des cartes du monde qui n'existent pas du tout. Et bah, tu te retrouves effectivement à te retrouver dans des histoires un peu incroyables, comme celle que je viens de vous décrire. Moi, c'est celle qui m'a le plus marqué, mais j'en ai vécu pas mal d'autres en jouant Civilization. Et je pense que c'est vraiment le moteur à histoire. En plus, tu peux diriger comme tu veux, hein, si t'as envie de jouer Napoléon, mais de pas faire la guerre, tu peux, quoi.
Tu peux aussi rejouer des scénarios historiques et totalement dérailler ce qui s'est passé.
Alors oui. Alors on va peut-être commencer avant de partir dans le jeu lui-même par, on va dire, les grands principes généraux de design pour les gens qui n'ont jamais joué à Civilization, qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc Civilization, bah, qu'est-ce que c'est ? Voilà, on va... Qu'est-ce qu'un 4X ? Alors c'est, il y a le, j'ai vu deux définitions en fait pour Civilization. Il y a le moi, Grand c'est... Strategy,
qui est okay. Donc,
le jeu de stratégie au sens pas stratégie en temps réel, hein, c'est pas Alerte Rouge dont on parlait tout à l'heure ou Warcraft, c'est pas, il y a pas de micromanagement, il y a pas de choses comme ça, c'est du Grand Strategy, c'est-à-dire qu'en fait tu prends des décisions pas à la seconde, mais tu prends des décisions à la minute, à l'heure, voire même à la journée, puisque une partie de Civilization peut durer très 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 longtemps.
Bah faut, et puis la partie, elle c'est le cadre temporel en jeu. Ça va de moins 2000 à 2050 hein, dans Civilization.
C'est ça.
C'est très, très large.
C'est que ce soit très 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 large. Et donc la deuxième définition généralement donnée, c'est celle du 4X. Donc c'est Explore, Expand, Exploit, Exterminate.
C'est ça. C'est un bon résumé en fait de ce que tu peux faire dans ce jeu au final. Et un peu des différents objectifs que tu peux avoir.
Donc explorer, s'étendre, exploiter, alors au sens
exploiter les ressources.
Et exterminer, c'est effectivement, il y a des civilisations qui vont s'éteindre. Tu joues sur 4000 ans quasiment de... Enfin, non pas quasiment, d'ailleurs, tu joues sur une partie dure entre guillemets 4000 ans, donc effectivement, il y a des civilisations qui vont naître et qui vont s'éteindre.
Exactement.
Et du coup, on n'est plus que 50 ans, 25 ans.
Ah bah oui, bah là, maintenant...
Peut-être que pour le prochain, ils vont peut-être aller un petit peu plus loin, 50. Alors, en tout cas, sur le 6, c'était 2050, je sais pas pour le 7, encore joué.
J'ai pas été au bout de la partie. Enfin, j'ai commencé une partie il y a à peu près 20 heures.
c'est vraiment long. En fait, surtout, c'est un jeu où plus tu avances, plus le temps d'un tour est plus long, puisque normalement, au début, tu as une petite ville, et généralement, tu passes les premiers tours pour construire tes premières unités à Serpion, il n'y a pas grand chose à faire. Arrivé à la fin, tu es quand même censé avoir un empire, tu peux faire plusieurs dizaines de villes. Avec peut-être des unités à déplacer, voire une guerre à gérer, et dans ce cas-là, faut quand même réfléchir à ce que tu fais. Donc, en fait, le tour, il peut passer de quelques secondes à plusieurs minutes assez facilement sur la fin. Sachant que l'ordinateur, les gens avec qui tu joues, bah, ils vont aussi avoir pas mal de choses à faire en plus. Donc, en fait, plus la partie avance, plus c'est long.
Alors, sur le 7, ils ont prévu, dans une prochaine mise à jour, il me semble que ça avait déjà été le cas sur le 6, l'option One More Turn qui te permet de faire une partie infinie.
Et ce qui est marrant, parce que c'est présent dans les autres jeux. Tu peux décider de pas gagner au score et t'es obligé de terminer avec une des conditions de victoire. C'est aussi un autre aspect de la série, c'est que il n'y a pas qu'une condition de victoire. Généralement, RTS, le but c'est d'écraser l'adversaire, détruire sa base. Là, dans Civilization, tu vas avoir d'autres conditions de victoire. L'extermination existe évidemment. Tu vas pouvoir avoir une victoire culturelle, c'est-à-dire que tu es le roi du soft power à travers le monde. Tu as la victoire scientifique où tu emmènes ta première fusée sur Alpha du Centaure. Vraiment une référence à un autre jeu de Sid Meier et de l'équipe de Civilization. T'as des victoires religieuses selon les jeux, ce genre de choses, donc c'est très très varié.
Oui, t'as pas qu'une seule façon de gagner, hein. C'est vachement important à signaler, c'est qu'effectivement, ça n'est pas... c'est bien pour ça qu'on parle de grande stratégie, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans du RTS, dans du jeu de stratégie en temps réel, où effectivement l'objectif c'est généralement d'éliminer l'adversaire, ou de s'arranger pour qu'il ne puisse plus... développer de nouvelles ressources, créer de nouvelles unités. Là, on peut gagner en étant parfaitement pacifiste et en ayant juste, effectivement, comme tu disais, du soft power ou la religion pratiquée par absolument le monde entier. Voilà, il y a plein de conditions de victoire possibles. Le militaire n'est d'ailleurs pas toujours la meilleure stratégie. Hein. Développer du militaire, bah, en fait, ça coûte des ressources, c'est pas évident à faire,
clairement.
Ça demande du temps, c'est... C'est clairement, très, très compliqué d'arriver à faire quelque chose en militaire.
Bah, être en guerre, ça veut dire prioriser la création d'unités, par exemple la création de bâtiments dans ta ville. Enfin, faudra qu'on explique un petit peu quand même un peu comment on joue, mais ça peut effectivement se faire au détriment de pas mal de choses, notamment ta production, perdre des unités, tu peux potentiellement perdre des villes. Et en fin de jeu, en fait, la guerre, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable.
Donc effectivement, il va peut-être falloir qu'on décortique un peu ça. Alors je préviens tout de suite, c'est extrêmement touffu. Il y a des dizaines, peut-être même des centaines de systèmes à l'intérieur de Civilization. Surtout que là, on parle de toute la série.
Oui, et puis la série change aussi. Alors les bases sont les mêmes d'un jeu à l'autre, mais par exemple, entre le 4 et le 5, on est passé d'un map en damier, comme dans un Fire Emblem ou un jeu d'échecs, à une map en hexagone.
Qui est restée depuis.
est resté depuis. La façon de gérer les villes entre le 5 et le 6 a aussi changé.
Et entre le 6 et le 7 aussi. J'ai pensé, j'aimais possible. Beaucoup ta citation, alors je sais plus quel est le nom du dev qui disait on garde 30%, on améliore 30% et on change complètement 30%.
Oui, c'est d'innover hein, pour le coup. C'est pour ça que la série en fait reste relativement familière d'un épisode à l'autre, mais quand tu regardes sur la longueur, il y a vraiment des gros changements.
Effectivement. Donc, on a une petite. Donc, pour expliquer, effectivement, on a une carte d'une taille raisonnable. Alors, généralement, on démarre sur, on va dire, une grosse île ou un continent.
Ça dépend du nombre de joueurs, la taille de la carte. Hein.
Ah, ça, je ne savais pas. Je pensais que la taille était plus ou moins standard. Donc, on, de toute façon, voilà, tu démarres avec genre une ville.
Même pas. Généralement, tu commences avec un colon.
Oui, c'est ça. Tu faut que tu fondes ta première ville et faut que tu te démerdes effectivement pour la mettre au bon endroit. Bon, sachant qu'on t'indique quand même gentiment les endroits qui sont plus recommandés que d'autres.
Généralement, quand t'es au bord d'une rivière, c'est ce qu'il y a de mieux.
Voilà, parce que tu pourras faire des navires à un moment où ce sera utile. Et donc, on a une map avec des hexagones. Donc, en fait, chaque case représente des ressources potentielles, des endroits où tu vas pouvoir construire des choses. Et donc l'idée, c'est que tu vas avoir une petite partie de gestion, donc de management de ressources. Chaque ville va aller créer des ressources. Par exemple, faire... Alors pour Civilization 7, là, en l'occurrence, c'est de la production. T'as de la production, t'as de l'or, t'as de la culture, t'as des...
Oui, c'est très standard pour la série.
C'est ça, c'est du... Bon, c'est de la ressource, exactement comme un RTS, tu avais de la ressource, de l'or, du bois, comment on dit, du tibérium, et ainsi de suite. Il faut considérer que c'est de la ressource de ce type-là. Donc mais tu as cette petite partie management de ressources, et on va dire développement de ville, puisqu'il va falloir construire des bâtiments, qui vont avoir chacun, effectivement, vont t'apporter des ressources et te coûter des ressources. Et puis, bah, développer ta ville, qui va devenir de plus en plus grande, puis aller mettre une nouvelle ville, et ainsi de suite.
Ce qui, en plus, va créer délimiter les frontières de ton royaume. Chaque ville a sa zone d'influence qui indique que ça fait partie de ton territoire. Je crois que c'est peut-être pas à remorque, je crois que c'est depuis le début, ça, quasiment. Et l'idée, c'est que cette zone qui est définie par ton territoire, bah, ça aussi indique aussi comment les autres nations qui jouent vont pouvoir interagir avec toi. Par exemple, si quelqu'un rentre sur ton territoire sans ton accord, tu peux mettre une déclaration de guerre. Et c'est aussi important de s'étendre pour occuper un max de territoire, parce que ça permet aussi de...
Bloquer l'adversaire.
De bloquer l'adversaire, et puis tout ce qui se trouve dans ta zone d'influence en termes de ressources, tu peux l'exploiter. Et t'as des notions de ressources précieuses, qui font plaisir à ta population, hein, parce qu'ils aiment bien avoir des bananes, par exemple, que tu peux utiliser aussi pour faire de la diplomatie, on en reviendra un peu après, parce que bon, pas une partie tout seul, il y a aussi d'autres civilisations, on les parle ou d'autres joueurs, avec lesquels on peut faire de la diplomatie, et qui est un truc assez important, mine de rien, quand même, pour le bon fonctionnement du jeu.
Et puis il y a eu des gros changements dans le set là-dessus.
Bah, en fait, ça, je crois que c'est une partie qu'ils ont toujours un peu de mal parce que l'ordi étant un ordinateur.
Là, c'est très très bien, on en parlera après, mais c'est vachement bien ce qu'ils ont fait.
Et voilà, l'idée c'est vraiment de s'étendre et de créer les bâtiments. Il y a aussi des bâtiments un peu spécifiques qui s'appellent les merveilles, qui sont en fait basés sur des merveilles existant vraiment. Hein. Sur les pyramides, une nation américaine, c'est pas un problème. Les pyramides d'Égypte, hein, pas les pyramides aztèques. Et ça, par contre, c'est un truc qui est aussi intéressant à faire, puisque ça donne du prestige à la ville, ça donne des super bonus, et il y a une seule civilisation qui veut le faire dans la partie. C'est aussi un peu la course à l'armement.
J'y précise, pense... dans les merveilles, il y a des trucs un peu chelous, donc vous pouvez peut-être imaginer les merveilles, c'est effectivement les jardins suspendus de Babylone, les pyramides de Gizeh, et effectivement, chaque civilisation a sa petite merveille.
Il y a la Tour Eiffel.
La Tour Eiffel, le World Trade Center, enfin, il y a deux, trois trucs un peu rigolos. Mais les merveilles, c'est aussi, genre, enfin, moi j'en ai un, il a carrément construit les chutes du Niagara.
Ah, what?
Moi j'étais scié. Hein.
Ah, on peut les construire.
Il
y avait les merveilles naturelles.
Alors là, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a été révélé, ça, genre, il l'a construit, tu vois, j'étais là, genre, ah ouais.
Ah, je pense que c'était plutôt qu'il l'a trouvé, parce que ça...
Peut-être qu'il l'a découvert, toi, c'est possible. Je sais pas comment ça fonctionne, c'est juste, j'ai eu l'alerte, le truc, il fait, ah bah, maintenant, on a les chutes du Niagara.
Ça fait partie des choses que tu vas obtenir avec l'exploration, c'est que tu vas pouvoir découvrir les autres civilisations. Et il y a aussi des bonus sur la carte, alors, je sais pas si c'est le cas dans le set.
Si, mais c'est légèrement modifié.
T'as des ruines... Et tu peux aller dedans et t'as des bonus, genre de l'argent, t'obtiens une unité, t'as des technologies en avance. Parce que c'est un autre aspect aussi du jeu, c'est que tu vas évoluer de point de vue technologique et découvrir la roue, puis l'écriture, puis la navigation. pour finir par apprendre comment faire des bombes nucléaires et Internet.
Ce qui est l'occasion de se perdre dans l'encyclopédie qui est dans le jeu, où tu peux apprendre plein de choses si tu veux, beaucoup des vraies choses avec des vraies citations qui claquent. C'est
ça. T'as un vrai aspect jeu éducatif presque, qui est assez ouf, parce que finalement, effectivement, tout est basé sur, entre guillemets, des faits réels. Alors évidemment, c'est un jeu vidéo et c'est assumé comme tel, il n'y a pas de souci. Mais là, dans Civilization 7, je veux dire, tu croises un dirigeant, tu peux aller regarder, t'as sa biographie complète, quoi. Genre, tu croises Lafayette, t'as la biographie complète de Lafayette.
C'est
ouf, quoi.
C'est très loin aussi, hein. Quand tu obtiens la technologie, t'as des citations de grands scientifiques,
tout à fait.
De grands hommes. Les merveilles, effectivement, c'est des bâtiments qui existent vraiment. Et d'autres.
Même si les gros historiens, de ce que je sais de mon université, les gros historiens vont préférer des jeux comme Hearts of Iron. Mais ça reste quand même bien d'apprendre plein de trucs sur Civ.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve ça rigolo d'avoir réussi. C'est un petit peu le même truc que Will Wright, le créateur de SimCity, qui disait on peut tout à fait faire un jeu qui soit un truc amusant, sans être un jeu éducatif chiant, mais qui t'apprenne des trucs. En fait, je trouve ça intéressant, tu vois, d'apprendre en s'amusant, finalement, c'est quasiment ça. Alors, est-ce que j'ai appris des trucs? Oui, il y a un des dirigeants, je connaissais pas du tout qui c'était, donc j'étais regardé dans la Civopédia, là. Et effectivement, t'apprends que c'était une pirate ou un truc comme ça de Jamaïque. Enfin, t'es là, genre, ouais, effectivement, tu des gens que tu connais pas, quoi, des grands leaders que t'as jamais vus, que t'as jamais étudié à l'école, parce que, le programme est pas assez large, mais...
C'est des régions du monde que tu... Pas forcément... Oui. Mais d'ailleurs, je trouve qu'ils font un énorme effort là-dessus de renouveler les dirigeants de chaque pays.
Oui.
Parce que pendant longtemps, genre, la France a toujours été Napoléon. Et ils se sont dit sur le 6, on va mettre Catherine de Médicis. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Bref, donc, il y a cette partie, finalement, jeu de gestion dont on a parlé. Il y a une petite partie jeu de stratégie. De placement de troupes, placement de villes, de placement de monuments, de placement de tout un tas de bâtiments.
Anticipation
de stratégie.
C'est qu'il y a quand même toute une partie guerre, hein, mine de rien.
Alors, encore une fois, on l'a dit, hein, le militaire, c'est pas forcément la meilleure solution. Parce que
mais on finit par y être confronté à un moment.
Mais à un moment, on est obligé, quoi.
Et ça reste une solution. Ça me rappelle un jeu qui s'appelle Seven Wonders. C'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu de table.
Très bon.
On a des connaisseurs. J'ai joué un peu avec mon beau-frère. Mon beau-frère aime faire des victoires militaires. Moi, je suis plutôt victoire scientifique, mais il fait beaucoup de victoires militaires. Donc, c'est une option et ça peut être efficace.
Encore une fois, ça peut être très efficace, mais c'est toujours pareil. Ça veut dire qu'il faut orienter l'intégralité de... On est, encore une fois, dans du grande stratégie, donc on ne réfléchit pas à la... On réfléchit vraiment à l'heure, quasiment. C'est-à-dire que les décisions que vous prenez maintenant vont avoir une influence pour les heures qui viennent. Donc si t'arrives à orienter toute ta civilisation pour devenir, entre guillemets, une civilisation guerrière, oui, la guerre, ça peut fonctionner. Mais si tu te dis à la dernière minute, je vais faire 3-4 soldats, puis on va aller se friter, il y a de bonnes chances que tu prennes une pile.
Ouais, si t'es pas assez d'armée, que tu te prends une guerre, tu vas morfler pendant quelques tours le temps d'avoir une armée au niveau. Hein.
Ça, j'allais dire, tu parlais d'une centaine de systèmes, en fait, tout est imbriqué. Si tu veux partir sur une voie militaire, faut pas que tu négliges la diplomatie non plus, ni ton économie, quoi.
Bah, oui, il y a des choses intéressantes aussi, c'est que même, dans certains épisodes, je sais pas si c'est le cas sur le 7, tu peux même choisir ton régime. Politique.
Ça te
donne des bonus sur certains angles de la stratégie. Et bon, globalement, t'as clairement des régimes politiques qui sont spécialisés pour la guerre. Hein. L'Empire, notamment, le fascisme, évidemment. Ça, c'est très orienté à guerre.
T'as tout un tas de trucs. Alors, t'as un petit aspect, ça c'est pareil, je ne sais pas si c'est... Je crois que c'était déjà sur le 6, un petit aspect évolution de tes troupes. C'est-à-dire que finalement, quand t'as créé des soldats, en fait, c'est pas juste des troufions que tu trimbales sur la carte pour aller se friter. Ils peuvent évoluer, ils peuvent devenir un petit peu plus malins, entre guillemets. Alors, je crois que sur le 6, le système était un peu limité. Là, sur le 7, le système est un petit peu plus efficace, on va dire.
Il y a toujours eu un système de gain de niveau, entre guillemets, des unités. Et tu peux aussi les faire monter, les améliorer. Genre, si t'arrives à un moment où ton guerrier devient un peu obsolète, où t'en es d'un point de vue technologie, tu propose de l'upgrader genre en mercenaire ou un truc comme ça, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce genre de truc-là. Et effectivement, on a parlé de diplomatie, ça fait partie des aspects très importants de Civilization. C'est-à-dire que c'est un jeu de stratégie complet, dans le sens où, bah, effectivement, il y a du militaire, effectivement, il y a de l'occupation de terrain. C'est-à-dire que si t'arrives à... le continent sur lequel t'es, si t'arrives à occuper, quasiment à le couper en deux et à isoler deux civilisations entre elles, bah forcément, tu vas pouvoir... les routes commerciales passent par toi, donc tu vas pouvoir arriver à négocier des trucs plus facilement avec les deux. Et t'as tout l'aspect diplomatie, où les dirigeants d'en face, il va quand même falloir leur dire comment ça marche, quoi.
Ouais, la victoire par la voie de la soie.
Oui, c'est ça.
Bah, en fait, le commerce fait aussi partie de... faire dans le jeu, créer des routes commerciales et aussi échanger des ressources un peu des ressources de luxe. Ça fait partie des choses que tu peux essayer de monnayer avec un autre dirigeant pour obtenir peut-être de l'argent, une technologie que t'as pas, ou négocier un traité de paix en temps de guerre. Ça, c'est... Il y a un aspect diplomatique qui existe, alors moi que je trouve toujours un peu compliqué avec les ordinateurs, parce que des fois ils ont des réactions un peu irrationnelles. Quand tu leur proposes quelque chose, ils te demandent de baisser ton froc, alors que toi, tu veux juste avoir une technologie contre un régime de bananes. Eux, ils te demandent de lui refiler une ville, et la thune, t'es là genre, bah non, pas trop.
Je vais 100 balles et un Mars.
Ouais, c'est toujours le souci avec l'ordi, qui parfois est aussi un peu lunatique, genre, j'aime bien, et puis 10 tours plus tard, ils commencent à dire, non mais t'es un peu un connard, en fait.
On a eu un exemple, il y a pas longtemps, où on a dit, on veut toutes les terres rares, et puis vous vous rendez. Attends, pardon.
Ah, c'est bon, là, t'as 45 minutes. On a tenu 45 minutes.
On a tenu, mais voilà. Mais bref, effectivement, t'as des réactions un peu irrationnelles, et là, alors, rigolo, je crois que c'était pas dans le 6, là, c'est dans le 7, mais c'était peut-être déjà dans d'autres civilisations avant, comme on a dit, hein, le principe de design, c'est un tiers on garde, un tiers on améliore, un tiers c'est nouveau. Donc il y a peut-être des systèmes aussi qui reviennent de temps en temps. Là, tu peux, non seulement t'as l'aspect commercial, t'as l'aspect diplomatique, t'as l'aspect échange avec une autre civilisation, mais t'as aussi l'aspect, bah, je suis en guerre, ce serait bien que tu soutiennes pas le copain, quoi.
Ah, je sais plus s'il y était avant.
Je sais pas.
Possible.
C'est possible, je crois que ça y était pas dans le 6.
C'était pas aussi clair que ça, c'était la notion d'usure de guerre qui jouait sur le moral des troupes et leur puissance. Et là, c'est refondu dans le nouveau système de diplomatie, à mon goût. Et je trouve ça vachement plus clair.
Effectivement, là, c'est vraiment très très clair. Hein. C'est-à-dire que tu peux aller... T'es en guerre avec un dirigeant et tu peux aller demander à un autre dirigeant en disant, ben voilà, tu me soutiens. Ça, c'est une façon de faire, hein, de dire tu me soutiens dans cette guerre. Il peut refuser. Mais tu peux aussi dire, bah, tu restes neutre ou tu t'engages à ne pas soutenir machine et à arrêter ton commerce avec et tout ça. Donc t'as presque des, si tu veux, de la sanction économique, ça existe quasiment. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ça existe. Alors, quasiment. Donc il y a
oui,
des trucs assez rigolos.
Je joue Napoléon et il y a une de ses capacités diplomatiques, c'est blocus continental, sanction économique, quoi.
C'est parfait. Alors, c'est une série qui a plus de 30 ans maintenant, parce que le tout premier jeu est sorti en 1991 sur MS-DOS. Parfait. Donc il y a pas mal de légendes urbaines et d'anecdotes à la con.
Ah, la meilleure partie.
Voilà, donc, là je t'en prie Antix, tu as le micro, tu peux nous faire le petit florilège des trucs un peu rigolos, je pense qu'on
a... Brossard, alors, on va rejoindre le narratif.
On peut peut-être déjà commencer par le truc un peu moins rigolo, mais la partie légale. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est donc le jeu, le vrai nom de la série, c'est Sid Meier's Civilization. Pourquoi il y a le nom de Sid Meier's? Alors apparemment, c'est quand les gars de Microprose ont rencontré Robbie Williams, l'acteur. Williams, celui que la fille s'appelle Zelda. Qui leur a dit, mais c'est marrant, dans le jeu vidéo, vous mettez pas vraiment le nom de vos créateurs. Où ils ont mis son nom. Et c'était aussi une façon d'éviter, je pense, un problème avec... alors j'ai plus le nom de la boîte en tête. Mais en gros, en Europe, sûrement des Allemands, hein, parce que vu le type de jeu, il y a un jeu qui s'appelle Civilization qui existe, qui reprend la même logique que le jeu Civilization, qui n'est pas l'inspiration principale de la série d'après Sid Meier. Lui, c'est plutôt inspiré de SimCity et d'une vieille série qui s'appelle Empire. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, le jeu a été publié aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui a récupéré les droits, ça a créé des problèmes sur la publication de Civilization qui portait le même nom. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que, alors, il y a toute une histoire de rachat de droits, etc. J'ai plus tout en tête. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que, Sid Meier's et Microprose à l'époque ont arrêté de sortir Civilization. Activision, toujours dans les bons coups, ces petits bâtards, ont sorti un jeu qui s'appelle Civilization Call to Power, auquel j'ai joué. C'est la première fois que j'ai joué un jeu type Civilization qui se rapproche pas mal de la série de Firaxis, mais qui est beaucoup moins bien, il paraît. Et du coup, après avoir sorti cet épisode, il y a eu des histoires de rachat. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin, Take-Two a racheté les droits de Civilization à Hasbro, qui les possédait à ce moment-là, a racheté Firaxis, qui est le nouveau studio des créateurs de Civilization, qui était, je crois, fin 90, début 2000, pour faire maintenant Civilization à partir du 4. Et, parce que j'aime bien les histoires de boucle bouclée, en 2010 est sorti un jeu de société, Sid Meier's Civilization. Voilà.
Oui, ce qui est assez rigolo. Parce qu'effectivement, il y a un côté... En même temps, appeler ton jeu Civilization, effectivement, c'est entre guillemets un peu risqué, tu vois. C'est comme si t'appelais ton jeu de football, foot FIFA.
Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont aussi collé le nom de Sid Meier's sur Pirate, qui est un autre jeu de gestion, qui est sympa aussi.
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'ils n'avaient pas les droits de Civilization, ils ont fait autre chose. Et notamment, c'est dans cette période qu'ils ont sorti Alpha Centauri, qui est un Civilization dans l'espace. Et qui sera notamment repris un petit peu plus tard dans la série avec un spin-off qui s'appelle Civilization Beyond Earth, qui reprend à peu près le même principe, à savoir une faction de la Terre qui arrive sur une planète alien et qui va tenter d'imposer sa doctrine. Du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pays, plus des philosophies de gouvernement. Et voilà, il y a cette idée qui existe aussi dans l'espace, qui a été faite par l'équipe de Civilization. Voilà, ça c'était la première anecdote. Maintenant je vais passer à ma préférée.
Oui, celle-là est très croustillante.
Est-ce que, ouais, est-ce que vous attendez mythique. Parler de Nuclear Gandhi? Eh bien, en fait, ce qui se passe... Alors, Nuclear Gandhi, qu'est-ce que c'est? C'est Gandhi. Dans le jeu, c'est un personnage qui est vu comme plutôt pacifiste. Alors, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du bonhomme savent que c'est faux. C'était un peu un déglingué dans sa tête, en réalité.
Oui, c'était un pacifiste dans le sens qu'il n'en venait pas aux mains, mais c'était un fouteur de merde, tout comme King aux États-Unis.
Tu dégages pas un colon anglais sans avoir foutu un peu la merde. Bref. Donc il est attribué comme étant plutôt pacifiste dans le jeu. Et il se passe une chose, c'est que quand quand il devient démocrate, sa valeur d'agressivité baisse. Et le truc, c'est que la sienne étant tellement basse, elle part dans les négatifs. Et du coup, en fait, au lieu de ne plus être d'être complètement pacifiste, il devient complètement agressif et se met à balancer des missiles nucléaires sur tout le monde. Donc ça, c'est la légende urbaine. Parce que dans la réalité, tous les programmeurs de Civilization ont dit c'est pas possible vu comment on l'a programmé. Que Gandhi devienne un grand taré qui décide de défoncer tout le monde à l'arme nucléaire.
C'est, voilà. C'est-à-dire que c'est la légende... Le mec qui a dit s'il s'est passé ça dans ma partie, il s'est passé ça dans sa partie, dans sa tête, en fait.
Alors, en fait, il peut... Gandhi peut avoir utilisé un nucléaire, attention. Et oui, du coup, ce qui s'est passé, c'est un truc qui est devenu tellement tenace dans les mythes de Civilization... que dans Civilization 5, les programmeurs ont décidé de vraiment inclure ce paramétrage pour Gandhi.
Ce qui est quand même... Je trouve ça tout à fait drôle. C'est le mythe qui rattrape la réalité, finalement. Il y a un côté très, très, très second degré là-dedans, je trouve.
Ah non, mais moi je le trouve assez incroyable, ce mythe-là. Et ça fait partie un petit peu, je pense, des petites histoires qu'on se raconte dans Civilization, notamment quand on raconte ses parties. Ce qui me mène à mon anecdote d'après que j'aime beaucoup aussi. Alors ça date de 2012, donc je me demande si la partie n'est pas terminée depuis, mais sur Reddit, un gars racontait sa partie avec de Civilization 2, auquel il jouait depuis plus de 10 ans. Alors, sachant qu'il expliquait qu'il faisait autre chose entre temps, hein, c'est juste qu'il a continué un petit peu sur le pouce comme ça de temps en temps.
Et qu'est-ce qu'il s'est sur la même partie, hein.
10 ans sur la même partie. Donc je vous avais dit, on avait dit Civilization ça s'arrête en 2050 normalement. En gros, c'est le moment où les victoires au score. On peut le retirer. Et en fait, ce qui s'est passé dans la partie de ce gars, c'est qu'il a quasiment atteint l'an 4000. Et dans cette partie, là, il n'y avait plus que 3 civilisations sur Terre. Le niveau des eaux a augmenté de telle façon à ce que les terres émergées soient très très limitées. Et ces 3 factions sont dans une espèce de Mexican standoff depuis plusieurs siècles à ce stade, je crois d'ailleurs. Où en fait ils n'arrivent pas à prendre le dessus sur les autres. Et en fait le gars a raconté sa partie sur Reddit au point que les gens ont tellement réagi que Reddit a créé un subreddit juste pour sa partie. Et je trouve ce truc assez incroyable de se dire, mais en fait il y a toute une histoire qui existe à ce sujet. Le mec a raconté toute une histoire sur Civilization 2
avec sa partie qui est dans une espèce d'impasse complète. Je vais pas regarder s'il avait terminé depuis. Je trouve cette histoire absolument fantastique, et si vous jamais vous êtes curieux, vous pouvez trouver un petit billet de blog du Monde qui relate un petit peu cette histoire, probablement en tapant Civilization 2, Le Monde, enfin Civilization 2, Le Monde, je pense que vous la trouverez assez vite. C'est un récit que je trouve assez rigolo. Il représente assez bien aussi ce côté très pourvoyeur d'histoire en fait, que permet de faire la série.
Tout à fait. On est effectivement, ça c'est le jeu dans le jeu, l'anecdote dans l'anecdote du jeu dans le jeu, c'est assez. Il y a peu de jeux qui peuvent se vanter d'être capables de faire un truc pareil.
C'est ça, en plus, c'est des références qu'on connaît avec des situations qu'on connaît, en plus ça rend le truc encore plus. Comme l'histoire que je vous ai racontée au début, quoi.
Tout à fait.
Et la dernière petite anecdote, et je pense que ça permettra de faire la transition, c'est que Civilization 4, avec son thème principal, Baba Yetu, est le premier jeu vidéo, après la première musique de jeu vidéo, à avoir gagné un Grammy en 2010.
Et oui, et c'est ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on va écouter maintenant. Alors, je préviens pour les gens qui écoutent sur Twitch, il y a tout à fait moyen qu'on se fasse striker en direct, parce que la musique, elle est un peu connue, quoi. Donc, je voulais pas mettre un extrait, je voulais vraiment mettre le morceau complet, donc si vous nous entendez pas au retour, vous inquiétez pas, c'est normal, ça reviendra au bout de quelques minutes, hein, au pire, ce sera dans le podcast. Mais voilà, donc on va écouter, toujours composé par Christopher Tin, le thème principal de Civilization 4, qui s'appelle Baba Yetu. Alors si le thème que nous avons écouté tout à l'heure, Live Gloriously, était chanté a priori intégralement en grec ancien, c'est quand même... Voilà, là, c'est chanté, si je ne dis pas de bêtises, en... merde, une langue africaine, j'ai perdu le nom. Ah ! Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est un grand classique aussi de Civilization, et un morceau qui est assez ouf. Vraiment, profitez-en. Ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes 30. On se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour. Et donc nous allons nous attarder plus précisément sur Civilization 7, donc surtout sur les nouveautés. Alors encore une fois, des nouveautés, il y en a plein. Je précise un peu comme on a parlé des systèmes de civilisation de manière générale, mais il a fallu être... Enfin, on ne peut pas être exhaustif, c'est impossible. Donc on va rester concentré sur, on va dire, les très 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 grandes lignes, parce que sinon c'est pas 2 heures qu'elle va durer l'émission, c'est 8 jours.
Bah, elle durera le temps d'une partie, en fait. Hein.
Ouais. Et combien de tours?
Et environ, environ 125 tours.
Dans tous les cas, il y aura un ou deux grognards pour se plaindre.
Oui, non, mais voilà. Donc on va vraiment se concentrer sur les aspects principaux, les nouveautés principales. L'idée, c'est derrière de vous donner un peu envie aussi d'y jouer si vous connaissez pas du tout la série. J'ai entre guillemets envie de dire c'est le bon moment, puisque c'est le, on l'a dit au tout début de l'émission, c'est le tout premier Civilization qui a vraiment été pensé pour être joué sur PC et sur console, et c'est vrai que d'un point de vue ergonomie, bah ça marche vachement bien.
Yes. Il y a un très bon article de Game Industry que Meduse nous avait partagé il y a quelques mois, justement qui s'expliquait comment le fait que d'aller sortir leur jeu sur Switch, parce que le 6 sur Switch avait bien marché, ça les a obligés à repenser la façon de créer leur jeu. Et du coup, les interfaces. Aussi, je pense aussi la gestion de la processeur, parce que une fin de partie de Civilization, ça fait ramer des PC quand même. Hein.
Ouais. Alors là, ça fait toujours ramer un peu. Alors sur la, je précise aussi, on va dire en préambule, la version 1.00 qui est sur la cartouche, ça rame bien.
Ouais, ça rame bien dans les menus.
Ouais, c'est quand même un peu compliqué par moment. La version... Alors, je crois que c'est 1.02, 1.03 qui est sortie il y a quelques jours, améliore énormément les choses. Donc, il y a eu des patchs correctifs. Donc, ne vous fiez pas à la première impression.
Ouais, et hier, on a eu la 1.10 qui améliore encore, en plus d'équilibrer 2-3 trucs.
C'est ça, et d'apporter quelques autres petites nouveautés en plus, donc c'est bien, c'est un jeu qui est un peu évolutif. Autre petite astuce, si vous êtes effectivement sur Switch, alors je pense que c'est valable aussi sur console et sur PC, en fait ce qui fait le plus ramer la bécane, c'est la sauvegarde. Par défaut, elle est paramétrée sur sauvegarde tous les 2 tours. Donc, bon petit conseil, mettez la sauvegarde automatique à tous les 5 tours, voire même tous les 10 tours. Ça vous fait une sauvegarde grosso modo toutes les 10 minutes.
Sauvegarde
en général, c'est suffisant.
Ouais, alors,
surtout qu'on peut sauvegarder manuellement.
Surtout qu'en début de partie, la sauvegarde tous les tours, c'est pas très utile.
Non, voilà. Même là, la sauvegarde tous les 10 tours, honnêtement, ça suffit amplement. Voilà. Donc ça, c'était, on va dire, la petite parenthèse technique. Donc ça fonctionne plutôt bien. En vrai, on est quand même...
Vous êtes arrivé où, justement, dans vos parties? Parce que c'est vrai que c'est souvent sur la fin où...
C'est un peu dur. Faire personnellement une trentaine de tours dans le troisième âge.
Alors moi personnellement je suis un peu coincé dans une boucle infernale, j'en suis au 150e tour dans le deuxième âge et ça pédale.
Alors, je pédale parce que ça, la console pédale ou ça pédale
non,
parce
c'est,
que tu
c'est
fais...
C'est ma partie pédale parce bolos. Que je me fais un peu bolos, mais j'expliquerai peut-être pourquoi je me suis fait bolos.
Je te dirais, c'est 160 tours, première partie, 160 tours, premier âge, à peu près 150 au deuxième. Quoi.
Alors moi première partie, enfin la partie là en l'occurrence, je crois que le premier âge j'ai fait moins de 50 tours.
Oh
ah, ouais. je l'ai bah en fait j'ai pris tant pis on va partir sur le truc maintenant c'est pas grave, j'ai pris Xerxes comme dirigeant.
Ok.
Et donc j'avais Xerxes et les Perses et Xerxes il a un gros bonus militaire.
Ok, j'en profite, première grosse nouveauté, les dirigeants ne sont pas liés à une civilisation.
Tout à fait, donc en fait alors c'est pas le cas sur le premier âge, je dis des conneries.
Si, j'avais Napoléon qui dirigeait les Romains, rien à foutre hein.
Ce qui est pour
à côté, j'avais Lafayette et les Égyptiens. YOLO.
Oui, effectivement, moi, Lafayette, il dirige. Merde. Ah putain.
Du coup, en fait,
les Chinois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est.
Si j'ai bien compris le fonctionnement, c'est que on choisit un dirigeant et en fait, c'est en fonction de l'âge à laquelle on est, donc j'ai bien compris, il y en a trois.
C'est ça.
Si je me fie, on a des civilisations précises qu'on peut choisir.
Tout à fait.
Qui évolue.
Que l'astuce étant, en fait, tu as, entre guillemets, un bonus d'héritage. C'est-à-dire que ton dirigeant, il va avoir une certaine spécialité. T'as typiquement Xerxes, sa spécialité, c'est plus le militaire. Donc quand tu arrives à l'âge suivant, donc quand t'es à l'Antiquité, en fait, bah, t'es Xerxes, t'as choisi une civilisation, puis bah, tu fais ce que tu veux. Tu vas avoir effectivement des facilités militaires. Si t'as pris une civilisation militaire et un dirigeant militaire, c'était mon cas, j'avais pris Xerxes, j'avais pris les Perses, j'étais 100% militaire, les deux avaient des bonus en militaire. Donc faire du militaire, c'était très simple. Donc aller casser la gueule à une autre civilisation, c'était hyper simple. Et au deuxième âge, en fait, on te demande de changer. Donc tu peux, en fait, tu vas hériter d'un certain nombre de caractéristiques que t'as développées au premier âge. Donc il y a tout un tas de bonus qui vont être portés sur le deuxième âge. Et après, tu choisis une autre civilisation, mais du coup, tu peux t'orienter complètement différemment.
Yes.
Tu peux vraiment aller choisir de faire une espèce d'énorme diagonale. Là où c'est difficile...
Est-ce que les civilisations que tu peux choisir, je veux dire, n'importe quelle civilisation avec n'importe quel dirigeant,
oui.
Et à n'importe quel âge, ou ça va être décidé par des choix que tu fais?
Il y a de ça. C'est-à-dire que tu as un arbre des possibles au départ qui... évolue naturellement sur un deuxième choix, puis un troisième choix, mais en fonction d'actions que tu as fait ou pas, tu peux avoir accès à des civilisations. Typiquement, l'exemple que j'ai en tête, c'est tu commences avec n'importe quel dirigeant, n'importe quelle civilisation. Arrivé au deuxième âge, si tu as accès à la ressource du pinard, bah, au troisième âge, tu as accès aux Français.
Oui, c'est
incroyable.
C'est incroyable.
Donc en plus, c'est incroyable. T'as des objectifs à accomplir si tu veux certaines civilisations,
c'est ça.
Ou alors tu t'adaptes avec ce que t'as et du coup t'es pas non plus en contrôle total.
En gros c'est ça. T'as un côté. Moi quand je suis arrivé au deuxième âge, donc j'avais toujours Xerxes, pas de problème. J'avais bonus militaire et j'avais cumulé plein de bonus militaires. Et là ma fille m'a dit ce serait rigolo qu'il ait les Incas. Donc j'ai dit ok on va prendre les Incas, mais sauf que les Incas leur spécialité c'est le colonialisme je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas du tout du militaire. Et c'est pour ça que j'en chie un peu et que je pédale un peu dans la smoule dans ma partie, c'est que moi j'ai plein de bonus militaires, mais en fait, si je déclare une guerre, ce que j'ai déjà fait, bah en fait je mets vachement plus de tours à aller casser la gueule à quelqu'un, quoi.
Ouais.
Alors que au premier âge, c'était je pouvais y aller, quoi.
Parce que ces
héritages, en fait, peuvent apporter des bonus comme des malus. J'aime tout bien la notion d'âge sombre.
Alors ça, on y reviendra peut-être un tout petit peu. Ah bah non, remarque, on est dedans, donc allons-y.
Donc c'est sur des transitions, si tu as exploré l'arbre, enfin la victoire économique, la victoire scientifique, tout ça, ok, très bien, tu peux récupérer des bonus liés à l'économie ou à la science, enfin à ce que tu as suivi. Mais si tu as complètement délaissé, mettons, l'arbre, enfin la route militaire, à ton héritage, tu pourras avoir un âge sombre militaire, ce qui, par exemple, va faire que toutes tes unités vont coûter vachement plus cher, en contrepartie d'une technologie gratuite, voilà.
En fait, t'as vraiment un système d'équilibre bonus-malus. Effectivement, t'as, quoi qu'il arrive, obligatoirement, à la fin d'un âge, quand tu approches la fin d'un âge, c'est-à-dire quand t'as réussi à remplir un objectif et que t'arrives à la fin de l'âge, tu as obligatoirement une période de crise. Ça aussi,
oui,
c'est une
ça, c'est très
nouveauté.
Très bien.
Et c'est très rigolo, c'est-à-dire que pendant les, je dirais, 15 derniers tours, quelque chose comme ça.
Oh, ça peut durer plus longtemps.
Durer
en
plus
fait,
longtemps
un âge se développe en pourcentage en fonction de l'avancée des parties des différents joueurs. Et je crois que c'est à 70%, c'est début de la crise. 80%, ça évolue. 90%, c'est vraiment le dur jusqu'à la fin. C'est pas un nombre de tours précis.
C'est pas, d'accord, je pensais que c'était un nombre de tours précis. Mais effectivement, la période de crise, c'est tout d'un coup. T'es exercice, t'avais les perses, t'as fait du militaire, donc c'est très 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 bien, mais t'as largement négligé, on va dire, le scientifique. Donc, pendant ta période de crise, qu'est-ce que tu vas avoir? Bah, tu vas avoir une épidémie, qui va se transformer en pandémie, quand tu seras au plus fort de la crise, qui fait que bah, ta production va être affectée, le bonheur de tes citoyens va être affecté, tes villes vont se développer beaucoup moins vite. Enfin, voilà. À chaque fois, t'as un truc un peu rigolo, on va dire, mais à la fin de chaque âge, t'es obligé de te taper une période de crise, qui fait que bah, ça va vraiment te mettre dans la purée.
Ça me rappelle un peu ce que fait Amplitude, les Français qui ont fait Humankind, sur leur 4X, où régulièrement ils te mettent des petits événements aléatoires qui vont te sortir de ton train-train et te forcer justement à t'adapter à une situation compliquée pour toi.
C'est un peu ça.
Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment avant, en fait?
Moi, ça me rappelle...
T'avais des catastrophes naturelles, me semble-t-il, sur le 6.
Alors, sur un DLC du 6.
6 avec extension. Ah. Et, c'était beaucoup plus rare dans les anciens épisodes. Et le 6 avec l'extension, je suis pas allé assez loin pour taper les catastrophes naturelles, parce que j'ai pas vraiment fait de partie jusqu'au bout.
Elles sont régulières, là.
Oui, là, t'as régulièrement...
Et d'ailleurs, plus ou moins graves. Mais...
Et elles sont plus ou moins prévisibles aussi, au sens où, quand il s'est produit une catastrophe naturelle sur... Typiquement, à un moment, moi, j'ai eu une inondation sur une ville, parce qu'elle était construite sur une rivière, quoi, tout bêtement. Et en réalité, il y en a régulièrement, tous les 20 ou 30 tours, il y a une inondation à cet endroit-là. Donc tu sais qu'il y a des endroits où il vaut mieux pas trop construire et puis se mettre un peu à côté et ça finit par le faire.
Tu peux l'en anticiper
un petit peu.
Au moins, il n'y a pas d'invasion de Bowser.
Effectivement.
Voilà. Non, mais moi, ça me rappelle plutôt Frostpunk. Dans Frostpunk, en fait, il y a un événement où c'est grosso modo le gros hiver et ça te fout dans la merde. Et du coup, tu dois essayer de gérer ton générateur, ce que font la plupart des joueurs, c'est de l'éteindre, le rallumer, sauf que là, c'est une seule crise qui est, évidemment, quoi.
Alors, effectivement, ça peut faire penser un petit peu à Frostpunk, je suis assez d'accord là-dessus, c'est au sens où les catastrophes naturelles, même si elles sont assez petites, en général, ça va détruire un bâtiment, un quartier... une ressource particulière, donc c'est pas un truc très très grave, ça t'handicape un petit peu, mais ça va. Mais l'âge de crise, c'est vrai que l'objectif, c'est quand même de te mettre des bâtons dans les roues et de t'obliger à t'adapter.
Ah, de t'obliger à réagir différemment.
Et à choisir effectivement un malus, à te dire ok, bah, tu vas avoir ça, mais en contrepartie, tu vas prendre cher. Donc ça te... T'as presque un côté, j'allais dire, roguelike, finalement, où, tu sais, chaque fois que tu choisis un bonus, bah, t'as forcément une contrepartie, quoi. Ça peut pas être 100% positif.
Ouais, et puis c'est intéressant, parce que ça évite le côté, parfois, un peu plan-plan, des fins de partie de Civ. T'es devenu vraiment trop fort, et tu peux plus vraiment être contré. T'as pas grand-chose à faire, là, au moins, ça ajoute un peu de... piment.
C'est ça, là, tu peux pas te faire... c'est exactement ça, là, tu peux... plus vraiment aller pulvériser un mec, c'est très compliqué.
Je pense que si tu sais optimiser, tu peux.
Je suppose. Mais ah, vu la quantité de paramètres qu'il y a, effectivement, je suppose qu'il y a des mecs qui ont réussi à fumer le jeu, mais c'est quand même c'est chaud patate, quoi.
Après, un sieve, c'est techniquement un roguelike. C'est juste, c'est juste que bah, c'est un très très long roguelike.
Ta run, elle est plus longue que, que l'intégralité de ta partie sur Hades, quoi.
C'est ça. Dernière petite nouveauté. Avant-dernière petite nouveauté, autre petite nouveauté, mais il y en a vraiment énormément d'autres. Hein, on vous parlera.
Il y a plein d'ajustements. Hein, oui.
C'est ça, des dogmes, de la technologie. Il y a eu des trucs dans tous les sens. Il y a des événements narratifs. Alors il y a le fameux. Je vous avais envoyé la photo. On m'a demandé moi. Il y a un mec qui a dit. Donc t'as des événements narratifs. Donc ça n'a aucune importance. T'as trois choix, genre trois réponses possibles. Mais en fait, les trois réponses c'est la même chose.
Un peu dommage. Ça t'apporte pas le même bonus, c'est tout.
C'est ça.
Ah.
Mais globalement, ça t'apporte
l'illusion
un bonus.
L'illusion du choix.
Non, c'est genre, t'as 200 de culture, ou 200 de production, ou 200 de bonheur. Tu vois, c'est un
ça, Antix, tu peux en développer, enfin, tu peux en déclencher en allant ramasser justement un trésor sur la carte.
C'est ça.
Ah, mais ça m'étonne pas.
Et là, l'idée, c'est que moi, il y en a un moment, il m'a dit, bah voilà, il y a des mecs qui sont allés dans le désert, ils ont pris un bâton, ils l'ont planté, ils ont regardé la taille, ils n'avaient pas la même taille d'ombre sur le bâton, ils en ont déduit que la Terre était probablement pas plate.
Oh.
Et donc, on m'a proposé donc trois réponses. Alors, le premier, c'était scientifique, hein, donc tu gagnais 200 de science, c'était oui, la Terre doit être ronde. Le deuxième, c'était, je crois que c'était...
Un rejet, quoi.
Ouais, voilà, c'était production ou un truc comme ça. C'était non, la Terre est cylindrique. Je me suis dit, bon,
ok. ça, c'est Méduse.
C'est ça que j'ai choisi.
C'était une vraie théorie à une époque. Puis, je crois que les Égyptiens sont partis en bateau. Ils se sont rendus compte que le soleil faisait un U. Et ils se sont dit, bon, bah, c'est un rond. T'as perdu ton pari, Gérard.
C'est peut-être un donut.
La fameuse théorie Animal Crossing.
C'est ça. Et le dernier, c'était... la dernière option, c'était religion. C'est non, c'est plat, ta gueule.
Et du coup, on a toujours dans les choses à gérer. On a le militaire, et après, on a la culture, la science, et aussi la religion.
Non, la religion, il n'y a pas religion, de victoire religieuse.
Oui, il n'y a plus de victoire religieuse.
Ah oui, on tire la victoire religieuse, voilà.
Elle est un petit peu saupoudrée partout. Ils appellent ça une victoire culturelle. C'est ce qui se rapprochait le plus.
D'abord, la victoire culturelle et la religieuse, c'était séparé.
Ouais, non, là, c'est un petit peu. La religion est un petit peu saupoudrée partout, au sens où elle va pouvoir te freiner ou accélérer d'autres routes.
C'est typiquement, tu vas pouvoir, à un moment, je crois que c'est au début du deuxième âge, on va te demander de choisir de fonder une religion. Et en fait, la religion que tu vas fonder va avoir des caractéristiques qui vont t'aider en science ou en culture ou en militaire ou en machin, enfin tu vois, c'est vraiment la religion est plus une espèce de prétexte qui est saupoudré effectivement un peu partout.
Ouais, j'ai quand même eu une guerre de religion et au troisième âge ça se transforme en idéologie, je trouvais ça très drôle.
La question importante, c'est est-ce que tu peux nommer ta religion comme tu veux, parce que ça c'est très drôle.
Non.
A priori non, t'as plein de religions disponibles.
Tu peux pas créer le pastafarisme.
Tu peux pas créer le pastafarisme, alors il y est, hein.
Yes.
J'ai regardé la liste. Alors, je crois qu'il y est. Je pourrais dire des bêtises, mais il y a beaucoup de trucs. Hein. La liste des religions, c'est vraiment énorme. Le truc qui fait genre, la première fois, on m'a dit, ce serait bien de fonder une religion. J'ai fait OK, et j'avais accès à un certain nombre de trucs parce que, en fait, mon dirigeant et mon peuple faisaient que je pouvais faire. Donc oui, alors je suis Xerxès, roi des Perses. Enfin, Xerxès. Je suis donc le dictateur bienveillant des Incas, parce que c'est ce que j'ai choisi comme orientation dogmatique. Et mes Incas sont tous taoïstes, parce que c'était le plus simple. Donc voilà, civilisation. la boîte à histoire, quoi. C'est vraiment.
Après, le taoïsme, c'est classe.
Bon, mais voilà, il y a trois pages. Donc je serais pas surpris qu'il y ait le pastafarisme, en vrai.
Parce que dans les précédentes, tu pouvais choisir dans les religions existantes, pour le nom, hein. Après les effets, tu choisissais derrière. Mais tu pouvais aussi dire, après la tienne et donner le nom que tu veux, tu peux.
Ça viendra après. Il me semble que depuis le dernier patch, on peut renommer les villes comme on veut.
Ah, ça c'est cool.
Ça pour le coup, ça fait aussi partie du truc rigolo de la série.
Oui, parce que c'est vrai que moi j'ai la comment dire là.
M'étonne que ça soit pas de base d'ailleurs.
Moi j'ai la reine espagnole, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est pas très grave, qui a donc les Grecs.
Oui.
Et sa capitale, c'est Madrid. Voilà, tout va bien. Quoi.
Oh, j'y pense pour te le placer maintenant. Au changement d'âge, n'hésite pas à changer ta capitale si tu peux, ça te fait une ville gratuite.
Ah, tiens, c'est pas inintéressant. Tiens, bah d'ailleurs, justement, il faut qu'on parle un petit peu de la gestion des villes.
On va renommer Paris en Lutèce.
Bon, on peut renommer les villes, apparemment, maintenant.
Oui, mais j'ai Rome, capitale des Français, rien à branler,
moi. Avec moi, j'ai encore une fois, j'ai Lafayette, qui est le commandant des Chinois, et sa capitale, c'est Perpignan. Hein, genre,
allez,
yes, vraiment,
on est là, c'est civilisation. Quoi.
Allez, vive Perpignan.
Et du coup, au niveau des villes, est-ce qu'il y a toujours la gestion par quartier, avec des bâtiments sur des cases à poser à côté de la case de la ville ?
Oui, c'est tout à fait l'idée. Il n'y a plus les workers, c'est tout.
Alors ça, en fait, je vais t'avertir, pas plus mal.
Voilà. Donc la ville, t'as vraiment un centre-ville, donc le premier hexagone sur lequel tu poses, et en fait régulièrement on va te demander d'étendre ta ville.
Donc tu vas Alors, pouvoir. C'est pas régulièrement, c'est lié à la nourriture.
Ah tiens, ça j'avais pas compris ça. Moi.
En fait, c'est si tu remontes la nourriture, tout... ça qui fait grandir le nombre d'habitants de ta ville et donc ta force de travail.
D'accord.
Si tu remontes tout en haut de la page d'une ville où tu appuies dessus, parce que ça gère le tactile hein, quand t'es en portable.
Tout à fait. Ce qui est super pratique, en vrai.
Sur la petite feuille, en fait, t'as les infos qui disent « Je génère tant de nourriture par tour, donc mon prochain citoyen est dans tant de tours. »
C'est ça. Et donc, tu vas pouvoir... Donc, t'as entre guillemets, deux façons d'étendre ta ville. T'as, on va dire, l'extension naturelle, où on va te dire « Bah tiens, voilà, il y a plus de place, donc il faut t'étendre. » Donc, tu vas aller prendre un hexagone à côté, finalement. Et l'hexagone va se spécialiser en fonction du type de ressources qu'il y a sur le terrain. C'est-à-dire, typiquement, si c'est de l'eau, bah, tu vas faire un pêcheur. Donc ça va rapporter un petit peu de production et pas mal de nourriture. Ça peut être une mine. Dans ces cas-là, ça rapportera beaucoup de production, mais pas de nourriture. Ça peut être une rivière. Et dans ces cas-là, ça rapportera du bonheur. Et comment dire, et de la production, genre. Enfin, c'est des trucs comme ça. Et ensuite, tu as effectivement les cases que tu peux urbaniser et dans lesquelles tu peux mettre des bâtiments qui vont consommer de la ressource de cette ville, mais qui vont aussi t'apporter des bonus. On est toujours dans la même idée de entre guillemets bonus malus. La petite nouveauté là, de ce que j'ai compris par rapport à Civilization 6, c'est que tu peux maintenant mettre deux bâtiments sur la même case.
Oui.
Ouais, en fait, alors,
ça c'est assez cool.
Et des quartiers. Genre dédié quartier scientifique, quartier culturel, dans lequel tu pouvais mettre des bâtiments précis.
D'accord. Bah là, en fait, tu peux vraiment un peu tout mélanger, c'est pas très grave. C'est-à-dire, tu peux avoir comment dire, une prison et une villa dans le même quartier. C'est pas dramatique. Les effets se cumulent.
Après tout, c'est juste la villa de Sarkozy, quoi.
Bien joué. Très bien joué.
Et qui s'appelle Orio, le bracelet électronique. Quoi. C'est vraiment... Voilà. Donc t'as toute t'as toute cette petite voilà effectivement les villes qui régulièrement te disent hey, ça y est je grandis bon bah ok bah tu vas t'étendre là
et ça c'est un truc que je trouvais assez chouette dans le 6, vraiment cette notion de quartier parce que dans les autres la ville elle s'étendait un petit peu genre uniquement visuellement mais ça donnait pas grand chose en termes de mécanique et du coup à partir du 6 avec le système de quartier qu'ils ont pris aussi dans le 7 un petit peu t'as vraiment ce côté, ben, j'étends les cases de ma ville, et du coup tu dois choisir entre mettre des aménagements, genre des mines et des fermes, ou mettre des quartiers dédiés ou des bâtiments dédiés. Et ça je trouvais ça assez cool, et même les merveilles, il fallait les placer sur des cases.
Ouais.
Mais ça, c'est n'importe où.
C'est assez stylé. Hein. Et en vrai, le développement des villes, c'est pas inintéressant, hein. c'est pas un gros truc, c'est pas un city builder, encore une fois. Hein. Mais t'as 2-3 choix stratégiques à faire, tu vois. Effectivement, est-ce que je vais m'étendre par là ? Parce que géographiquement, c'est intéressant, ça me rapproche d'une autre ville qui est à moi, donc je peux peut-être faire une jonction et bien bloquer
cette partie de la carte. Faire une belle mégalopole.
Faire une belle... C'est ça, hein, faire un... Ou il y a la civilisation en face avec laquelle je suis pote, j'aimerais bien m'en rapprocher, ça me simplifierait la vie, ou au contraire, c'est des fils de pute, donc j'aimerais bien venir planter une caserne directement sous leur pif, ce qui est possible aussi.
Ah bah, les villes frontalières, c'est des villes militaires dans certaines parties. Hein.
C'est exactement ça, mais t'as vraiment un côté... moi, il y a une civilisation sur le premier continent sur lequel j'ai démarré. Il y a une civilisation, en fait, j'ai fini par les isoler dans un coin. C'est-à-dire que j'avais 4 villes autour d'eux, les mecs pouvaient plus bouger. Donc ils se sont fait défoncer. Hein. Je les ai rasés, quoi. D'ailleurs... On parle de ça aussi, donc les villes sont capables de produire, et tu as un deuxième type de ville qui s'appelle des colonies. Des communes, pardon, oui, effectivement, qui elles sont obligées d'acheter.
Alors en fait, c'est quoi les communes ? Parce que pour le coup, ça c'était pas là avant.
Alors c'est pas une ville.
C'est comme une ville, mais ça fait pas de production.
C'est ça.
En fait, c'est un truc qui est dans ton empire ou c'est un truc indépendant ?
Ah non, c'est à toi, simplement. D'accord. C'est pas une. Tu vas. D'habitude, quand tu crées des unités ou des quartiers ou des bâtiments ou des machins, ça coûte du temps. Ouais. C'est du temps de production.
Qui est là, fonction en fait, de ta prod, ouais.
C'est ça. Là, les communes, en fait, elles ne peuvent rien produire par elles-mêmes. C'est-à-dire, t'as juste un onglet achat et tu peux aller acheter des unités ou des machins comme ça, ou tu peux payer, je crois que c'est 1000 d'or pour promouvoir.
Ça dépend.
Ah, ça dépend des villes.
Ça dépend son placement, les ressources et tout. C'est plus ou moins cher.
Mais tu peux payer une certaine quantité d'or pour la promouvoir en ville, sachant que tu as un maximum de villes possible.
Tu peux le péter.
Tu peux le péter, mais tu prends du moins de bonheur.
Du malus bonheur.
Donc c'est pas si évident que ça. Et puis un autre truc rigolo, c'est que quand tu conquiers une ville, c'est-à-dire quand tu fais la guerre, ou que tu t'échanges une ville avec un autre dirigeant, puisque ça peut arriver, la ville va se retrouver pendant 10 tours dans une situation un peu compliquée. C'est genre, c'est la révolte.
C'est l'émeute.
Donc si tu mets pas un commandant d'armée dans la ville, déjà c'est le bordel et tu finis par la perdre. Ce qui est pas très agréable. Et ensuite, quand tu conquiers une ville, en fait, tu peux choisir soit de l'annexer, et ça prend beaucoup de temps, et les gens sont pas contents, et donc du coup c'est le bordel, mais tu vois, c'est de l'intégration, tu vois.
C'est l'Alsace-Lorraine, quoi.
C'est ça, c'est un peu compliqué. Ou alors tu peux décider de la raser, et là les gens sont pas contents non plus, mais tu les emmerdes. Voilà, donc ça fait partie des petits trucs, bon. C'est assez rigolo.
Tu parlais, Antix, peut-être ce qui était avant les colonies de barbares.
Non, moi je pensais aux cités-états. Les anciens épisodes, ils avaient genre Venise par exemple. C'était pas un royaume, c'était une ville qui avait une production un peu dédiée et le but c'était que tu la courtises un peu pour qu'elle devienne ton allié pour obtenir des bonus.
Ça existe toujours, mais là ça rejoint le nouveau volet diplomatie, c'est-à-dire que tu peux trouver des embryons de cité-état qui traînent sur la carte, avec lesquels il va falloir sympathiser ou les défoncer si tu veux. Ça peut te faire une colonie gratuite dans le temps, mais c'est toujours encore une fois la course à l'échalote avec les autres joueurs.
Ouais, le but c'est de faire d'être un peu les courtiser quoi.
C'est ça. Et donc ça se courtise avec la nouvelle ressource, l'influence.
Ah oui, c'est très important l'influence, j'ai complètement oublié. Vas-y, Mecton, fais-nous un petit cours d'influence, c'est assez marrant comme
donc ça, alors, est-ce que c'est des Instagrammeurs du coup que tu envoies dans les cités-états ?
Non, soft power.
L'influence, ça se passe exclusivement à Dubaï.
Donc c'est vraiment une nouvelle monnaie qui s'engrange à chaque tour au même titre que l'or. Alors pour en gagner plus ou moins, ça va être différents paramètres, mais en gros c'est lié au nombre de villes et au soft power que tu développes. Et donc ces points d'influence, tu peux les utiliser dans le volet diplomatie. Donc à chaque, donc les cités-états, tu peux sympathiser avec elles, ça te coûte un certain volume, certain montant d'influence. Ensuite ça va te prendre quelques tours et tu peux remettre de l'influence dedans pour que ça prenne de moins en moins de tours. Cette influence, elle te sert surtout en fait pour faire de la diplomatie avec les autres dirigeants, c'est-à-dire que tu vas avoir une liste de propositions, donc des traités, genre libre passage, on ouvre les frontières, ou des actions un peu plus ponctuelles, ou des sanctions, ou une déclaration, ou créer une alliance, enfin voilà, tout ce qu'on pouvait faire en diplomatie. Et donc à chaque fois qu'une action est proposée, l'autre dirigeant peut la soutenir, l'accepter ou la refuser. Et là où c'est intéressant, donc quand tu proposes une action, il y a un certain bonus qui va être mis en jeu, genre allez, plus 12 or pour les deux dirigeants si l'action est soutenue. Donc pour soutenir une action, l'autre dirigeant doit dépenser le même montant d'influence. Il ne peut pas, pour 0, il l'accepte. Donc ça lui fait un petit bonus, mais toi un bonus plus gros. Et pour la refuser, il doit payer également. En gros, tu peux faire des offres que tu ne peux pas refuser.
C'est exactement ça. Je trouve ça très drôle.
Si tu proposes une sanction, le dirigeant en face peut payer cher pour refuser la sanction, mais s'il peut pas, il se prend la sanction.
Oui, bonjour.
Il est obligé de l'accepter.
bonjour, pouvez-vous me dessiner en Superman? Je vous paierai en exposure.
C'est un peu ça. Mais c'est vraiment assez rigolo le système d'influence, sachant que c'est vraiment géré comme une ressource comme une autre en plus. Donc si de temps en temps t'as un conseiller qui te dit que vous avez trop d'influence, ce serait bien d'aller faire des trucs là.
Et c'est là où tu peux acheter des soutiens dans les guerres aussi.
C'est ça, tu peux, parce qu'effectivement tu peux, ça veut dire que tu peux vraiment véritablement forcer la main d'autres dirigeants.
Incroyable, genre tu les invites dans ton palais présidentiel avec tous les journalistes et après tu leur dis bon faut arrêter maintenant. En leur disant qu'ils sont pas habillés correctement pour rencontrer le président.
Bah, c'est à peu près ça. En vrai, c'est à peu près ça. Hein.
Ah oui, non mais un Russe qui gère les Américains, c'est possible.
Encore une fois,
c'est très, très possible.
C'est typiquement ça. Hein. T'as ta machine qui arrive, elle te propose un truc, ça te plaît pas, refuser te coûte très cher en influence, mais derrière ça la fout dans la merde. Donc il faut ruser un peu, quoi. Il y a un côté très rigolo à ça, au fait d'avoir quantifié finalement la diplomatie. Parce que c'est à peu près ça. Donc ouais, t'as toujours aussi de à développer ton influence.
Ah oui, on parle toujours de cible.
c'est la complexité aussi d'équilibrer un aspect de jeu qui est fondamentalement humain, qui est la diplomatie. Même il y a des négociations, des échanges à faire avec des intelligences artificielles en face. Donc je pense que c'est une piste qui a l'air intéressante de ce que vous en dites.
Oui, ça permet des bonus genre... Tu peux sympathiser plus vite et moins cher avec un dirigeant qui partage le même gouvernement que toi, plein de petites subtilités qui, encore une fois, sont la porte ouverte à plein d'histoires très, très, très drôles.
C'est ça, tu peux être très, très pote. Moi, par exemple, je suis très, très pote avec Lafayette. C'est mon sauce. D'ailleurs, j'aime beaucoup le doubleur de Lafayette, c'est un petit peu « Oui, oui, baguette ». Vraiment...
Oui, oui, baguette.
C'est un peu ça, ça me fait
omelette du fromage.
On est là. Et ma femme, Lafayette, elle peut pas le saquer. Donc en fait, dans deux parties différentes, elle est en bisbille avec Lafayette, elle arrête pas de refuser ses trucs, de lui envoyer des crasses dans la gueule. Alors que moi, c'est mon super sauce. Tout ça parce que, voilà, on a choisi tous les deux d'être des militaires et ça passe bien. Donc c'est bon, je trouve que c'est vraiment, on est encore une fois dans l'usine à histoire.
J'ai une petite question d'ailleurs au niveau du jeu, est-ce qu'il y a toujours un mode multijoueur sur une même cartouche où on passe la manette à la fin de son tour?
Alors je ne sais pas, parce que j'ai pas vérifié. Il y a un multijoueur en ligne, ça c'est sûr.
Moi j'ai les premières parties de Civilization, c'était avec mon frère, et en fait on se relayait devant l'ordi, chacun faisait son tour.
Ben en vrai, c'est un bon mode, ça.
C'est super bien, ça.
C'est comme ça qu'étaient les premiers modes multijoueurs, hein.
Ouais, non, mais... Yeah. Alors, vous savez quoi, j'irai vérifier, pour la publication du podcast, j'irai vérifier cette information-là, parce que ça m'intéresserait, effectivement, de voir si on peut jouer à 1, 2, 3 ou 4 sur la même machine. Je pense qu'il y aurait un truc un peu rigolo à faire.
Il y a un truc, je sais pas non plus... Renard en parlait tout à l'heure. Je sais pas si on a des scénarios...
Je ne crois pas. J'ai pas vu ça dans le menu principal, alors peut-être que ça se débloque.
Je sais que c'était au moins sur Civ 3, parce que c'est celui que j'ai, et j'avais lancé une partie où je jouais Napoléon, et on était en pleine guerre de je ne sais plus trop quoi.
Peut-être les Russes, sûrement.
Ou les Égyptiens, ou les Anglais, enfin...
Ouais, et j'avais essayé de respecter un petit peu l'histoire, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ça va, et bon, on va envahir.
Et le bâtard a fini par envahir l'alliance Bismarck. Bismarck, comment dire, Victor Emmanuel II, qui dirigeait la Grande-Bretagne depuis Rome.
Voilà. Allez.
On est à peu près là, quoi. Dernière petite nouveauté d'importance, c'est les histoires de commandants. Alors, Mectron, je sais pas si t'as envie de détailler le truc, parce qu'il y a le passage d'âge a
très
une petite influence là-dessus aussi. Hein.
Donc ça, c'est pour moi quelque chose qu'ils ont fait. On fait beaucoup moins de... Enfin, tu peux faire moins de micromanagement dans le sens où tu as des unités qui sont des commandants. Alors, commandants à pied, bateau, ou plus tard, après, j'imagine, aérien. Et ces commandants, en fait, permettent de donner des ordres à toutes les unités qui sont autour de lui. Et seulement lui prend de l'expérience et a un petit arbre d'évolution. Pourquoi je dis que ça simplifie les choses, c'est que les unités qui sont à proximité d'un commandant peuvent s'empiler sur le commandant. ce n'est pas sale.
Ils portent des archers et des catapultes. Ben tout va
bien. Non, mais la première fois que j'ai construit justement une catapulte qui se déplace à deux à l'heure, j'ai eu le petit conseil, vas-y, empile-la sur un commandant et ça se déplacera beaucoup plus vite, quoi. Et donc là où c'est hyper important, c'est qu'au changement d'âge, là où se passe cette espèce de soft reset, toutes les unités qui ne peuvent pas être empilées sur un commandant sont perdues.
Ouais, donc on perd beaucoup d'unités d'un passage d'âge à l'autre, sauf si on ouais. a mis suffisamment de commandants.
C'est ça. Sachant qu'on les récupère pas tel que un chevalier en armure. Là, je viens de passer au troisième âge, ça devient un garde impérial. Ça devient son équivalent de dans l'âge en ouais. question.
Mais c'est vrai que quand on dit soft reset à chaque âge, c'est pas loin d'être ça, hein, finalement.
Oui, bah,
on tu parlait gardes tes les bonus d'héritage, mais le reste, bisous.
On parlait les villes donc hors capitale redeviennent des communes. Donc si on veut en faire des villes, il faut les racheter. Les cités-états qui sont restées tranquilles dans leur coin disparaissent. Celles avec lesquelles on était juste amis redeviennent hostiles et celles qui étaient annexées à notre empire redeviennent indépendantes mais amicales.
En gros, nous étions alliés.
Ouais, il faut recommencer.
Mais c'était il y a deux mois.
Il faut recommencer plein de choses et ça c'est valable pour tout le monde.
Les mecs qui t'ont genre viré de leur ami Facebook.
C'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'il y a un côté intéressant à cette histoire de trois âges là. Ça fait vraiment. T'as aussi un changement d'échelle en fait. Je l'ai vu entre le premier et le deuxième âge. Je suppose que c'est la même chose entre le deuxième
c'est
et le troisième.
C'est le plus flagrant. C'est le plus flagrant parce que le premier âge, tout le monde est bloqué sur son continent. Il est impossible de traverser les hautes mers. Et le deuxième âge,
c'est
l'âge de l'exploration.
Du cabotage en fait. Ouais. Tu peux tourner autour de ton continent, mais c'est tout. Et le deuxième âge, c'est l'âge de l'exploration, c'est-à-dire là, on t'encourage, c'est même l'objectif, c'est d'aller fonder des colonies, d'aller sur un autre continent, d'aller croiser d'autres civilisations, d'aller fonder des colonies.
Il n'y a pas d'âge de glace pour qu'on aille jusqu'aux Amériques ?
Eh ben non, faut te démerder en bateau.
Mais même chose, tu vois, dans les petits... si tu débloques le 20, t'as accès aux Français. Avec n'importe quel dirigeant, si tu fondes trois colonies sur le continent d'en face, t'as accès aux Américains.
Ah, pas mal, ça je savais pas, tiens, ça... C'est rigolo. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des principales nouveautés.
Oui, parce que si on fait la liste des ajustements, on est là longtemps.
On va y passer la nuit.
Après, de toute façon, je pense que le cœur du gameplay reste le même que dans les épisodes précédents.
Complètement. De toute façon, on reste toujours dans la même idée, donc c'est rigolo.
Bah, je pense que c'est pour ça qu'il faut retenir Civilization.
C'est bien. C'est un bon épisode pour commencer, le 7.
Je pense que ouais, les tutos sont très bien expliqués. Et encore une fois, l'ergonomie des menus, le fait qu'on puisse y jouer au tactile quand on est sur Switch, c'est quand même... ça fait quand même plaisir. Et c'est vrai que le 6 était pas trop mal d'un point de vue ergonomie, mais tu sentais quand même que ça n'a pas été tout à fait pensé pour ça. Là, vraiment, tout tombe sous les doigts. Il y a quelques menus un petit peu à la con, notamment des trucs où il faut confirmer avec X, c'est pas toujours... c'est un peu foireux parfois.
Oui, la touche X, faites gaffe, c'est ça. Donc, les notifications, très important, mais surtout quand vous choisissez une prod, c'est ce qui permet d'accéder à l'arbre. Et une fois que t'as compris ça, c'est vachement plus clair.
Ah oui, il y a plein de trucs comme ça, mais tout est assez bien indiqué, la croix est utilisée pour développer quelques... C'est genre, t'as les photos t'as les civilisations qui sont en haut à droite, mais en fait, si t'appuies sur la croix de droite, ça permet d'aller développer le menu directement et d'accéder à... T'as des raccourcis vers certains menus qui t'évitent de repasser par le menu radial. Enfin, vraiment, d'un point de vue ergonomie, sur console, en tout cas, je trouve ça impressionnant. Je sais qu'il y a tout un tas de gens qui ne jurent que par Civilization sur PC, et franchement, je ne peux pas leur en vouloir. C'est parfaitement compréhensible, avec une souris, c'est quand même aussi très... Enfin,
comme tous les RTS.
C'est plus rapide, c'est peut-être un peu plus instinctif. Mais franchement, je trouve que ça se joue très 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 bien à la manette.
C'est quand même un genre de jeu où t'as énormément de menus différents, avec beaucoup de choix à naviguer, c'est... Confort, c'est pensé pour la souris. Hein.
Ouais, et surtout, les plus vieux,
peut-être
ils
pas
sont
le 7,
un peu...
Du coup,
mais...
Ouais, alors après, nous, on peut aussi tenter un truc, c'est que la résolution du jeu est suffisamment élevée pour que ça fonctionne assez bien aussi. Hein. 1080p sur ta télé, les menus sont lisibles.
Ouais, ça c'est important par contre.
C'était pas tout à fait le cas du 6, hein. T'avais pas mal de textes qui dépassaient un peu des menus, c'était un peu la va te faire foutre, quoi.
Je sais pas si t'as fait gaffe, si tu joues au 7 en portable, l'arbre est réduit, ça s'adapte à la résolution, et en gros, au lieu de te taper des tartines de texte, tu as juste des icônes, et après, il faut y aller à coups de tout le type pour développer le texte. Quoi.
Bien foutu. Non, j'avais pas remarqué. J'ai très peu joué en portable, hein. J'ai vraiment joué essentiellement sur la télé. J'ai dû essayer quelques minutes en portable pour vérifier, mais c'est à peu près tout.
C'est plutôt malin.
Ça, je ne dis pas le contraire. Bref, eh ben, je pense qu'on va se quitter là. Je suis très content d'avoir cette petite émission sur Civilization. Ça fait quand même bien plaisir, surtout que c'est une série qui commence à dater. Je ne sais pas ce qu'on va faire dans 2 semaines. Peut-être qu'on fera la bagarre 3. Mais il faut que Antique se soit là, parce que l'émission repose quasi intégralement sur lui, en l'occurrence.
Ouais, alors si on fait la bagarre 3, il y aura des RDH, hein, faites gaffe.
Ah bah ça,
ça va RDH dans tous les sens.
C'est un peu, voilà, va falloir qu'on reparle de Xenoblade Chronicles X, je pense qu'on n'aura pas trop le choix, mais ce sera peut-être plus un peu plus tard, parce que je crois que c'est toute fin mars que ça ressort.
Alors, la prochaine émission est le 19.
Il sort le 21, genre.
Il sort le 20.
Bon, donc ce sera peut-être plus tôt pour la prochaine fois, donc on verra.
Avec Xenoblade Chronicles, je pense qu'il y aura peut-être pas une émission complète, mais peut-être un petit passage sur les nouveautés de la version définitive. Parce qu'il y a pas mal de nouveautés de scénario et de qualité de vie qui ont été rajoutées. Il y a des previews qui sont tombés pour la partie.
Attends, tu as espoir que d'ici l'émission d'après, on ait accès à l'épilogue ?
Non, je pense pas. Ouais. Moi, je pense pas, mais ça, peut-être que tu vois, ça vaudra le coup d'en toucher un mot peut-être en avril. Je pense que de toute façon, la première émission d'avril, ce sera consacré à la présentation de la Switch 2.
Il y a moyen, hein.
Bah déjà, on pourra au moins annoncer la plus grosse nouveauté de Chronicle X version définitive. C'est pas sur Wii U.
Incroyable.
Effectivement, c'est incroyable. Bref, donc on verra. Donc peut-être que effectivement, dans 2 semaines, on fera la bagarre. Parce que moi, je suis assez chaud de la bagarre. Et effectivement, peut-être qu'on se gardera avec Xenoblade Chronicles X pour un moment un petit peu plus calme, dans lequel on aura un peu moins de sorties, et où on pourra vraiment avoir joué au jeu pendant un petit moment pour pouvoir en parler correctement.
Oui, parce qu'on parle quand même d'un jeu de 100 heures. Hein.
Voilà, donc on va éviter de rusher. Bref.
Bon gros gir.
Un bon gros truc, quoi.
Avec des robots.
En attendant, on
des
fait
mécas,
de...
hein.
En attendant, on vous fait de très très gros bisous, et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Bye bye.
Bye bye.
Salut, salut.